Aujourd'hui, pour cette avant-dernière séance, je vais vous proposer une partie un petit peu plus théorique. Et puis, on clôturera le cycle avec une partie plus franchement politique la semaine prochaine. Donc, pour la dernière séance, avec la fameuse question de la démocratie qui revient régulièrement, mais que j'ai repoussée pour la fin. Et donc, cette partie-ci, plus théorique, elle va porter surtout sur ce mode d'être dont on a vu qu'il échappait à la logique ensembliste identitaire et que, pour lequel Castoriadis a forgé le concept de magma. Il a proposé d'appeler ça un magma et on va voir pourquoi. Il y a des métaphores qui justifient le choix de ce mot. Mais d'abord, comment est-ce qu'il définit ce que c'est qu'un magma? Il le définit comme ceci. Un magma est ce dont on peut extraire ou dans quoi on peut construire des organisations ensemblistes en nombre indéfini. Il ne dit pas infini parce que ça serait déjà se prononcer sur leur nombre. On ne sait pas si c'est infini, mais c'est innombrable, disons, par sa quantité. Donc en nombre indéfini, mais ce magma ne peut jamais être reconstitué par composition ensembliste, finie ou infinie, de ces organisations. Donc, vous voyez que c'est une sorte d'énorme réservoir, enfin, énorme matière au sens pas concret du terme, mais matière à découper des ensembles qui sont identitaires, qui sont déterminés par la logique, mais dont l'ensemble de ces ensembles ne peuvent pas former une somme qui recompose la totalité du magma. Voilà, c'est un ensemble qui est tout le temps en excès, hein, qui est tout le temps plus que ce qu'on peut y découper, et ce plus est de l'indéterminé. Ce plus, c'est justement des parties qu'on n'arrive pas, qui n'ont pas une détermination fixe. Mais tout ça, justement, je vais le développer aujourd'hui en donnant beaucoup d'exemples, et notamment l'exemple du langage. Mais avant d'arriver à ça, ce qui est assez intéressant c'est que Castoriadis dit qu'au fond, tout ce qui se donne à nous, l'ensemble de tout ce qui se donne, l'ensemble du monde tel qu'il se donne à nous, est aussi un magma, est aussi un tel magma. En fait, c'est aussi quelque chose dans lequel on peut découper des déterminations, des ensembles, des choses identifiables et connaissables scientifiquement, mais qui ne l'est pas de part en part. Et dans toute cette partie de son ouvrage, il est clair qu'il fait une référence d'abord implicite, mais en plus qui va devenir explicite, à la philosophie de Kant, à la philosophie kantienne. C'est pour ça que je vais vous toucher un tout petit mot de cet arrière-fond qui est important. Donc Kant écrit La critique de la raison pure en 1781 et pour certains aspects de cet ouvrage, il marque d'une manière définitive la philosophie. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas revenir au-delà de Kant. Je veux dire, il y a des choses qu'on ne peut plus penser de la même façon. Et une de ces choses, justement, celle qui nous concerne ici, c'est la distinction entre phénomène et chose en soi. Entre phénomène et chose en soi. Et cette distinction, c'est quoi? En fait, le phénomène, c'est toute chose qui nous est accessible, que nous pouvons appréhender par nos structures, par nos facultés d'appréhension du monde, qui sont la sensibilité et l'entendement. Donc, par entendement, je vous rappelle qu'il entend justement tout ce qui est compréhension intelligente, capacité de développer une science, capacité de détermination, justement. Et la chose en soi, au contraire, c'est la chose telle qu'elle est en elle-même, indépendamment de la manière dont nous la percevons ou dont nous la comprenons. Donc en fait, vous pouvez imaginer n'importe quel objet et vous dire, en fait, voilà, cet objet, je peux le connaître de différentes manières, par les sens, ensuite par la compréhension de ce qu'il est, y compris éventuellement une compréhension extrêmement scientifique et approfondie des particules qui le composent, etc. Mais tout ça, c'est toujours que du phénomène, parce que c'est toujours la chose telle qu'elle m'apparaît. Donc phénomène vient du verbe grec phainomai, c'est apparaître. C'est l'apparaître des choses. Et même la compréhension la plus scientifique des choses, c'est toujours de l'apparaître, parce que c'est toujours tel que ça nous est donné, justement, tel que nous pouvons recevoir la chose. Mais la chose en soi, par définition, elle est totalement inaccessible. Ce qu'elle est par elle-même, c'est par définition ce qu'elle est en dehors de notre compréhension, en dehors de notre saisie. Et même si on imaginait des êtres extraterrestres qui avaient d'autres facultés de connaissance, qui est parfaitement imaginable, à défaut d'être connaissable, et bien même si on imaginait ça, eux, ils auraient accès à un autre champ de phénomènes, ils auraient d'autres phénomènes qui se donneraient à eux, mais ils n'auraient toujours pas accès à la chose en soi, eux non plus. Puisque, hein, par définition, la chose en soi, c'est ce qui n'est pas pour quelqu'un, hein, qui n'est pas tel que quelqu'un l'aperçoit. Voilà, donc cette distinction, à peu près tout le monde en philosophie, après Kant, a reconnu qu'elle était, pour ainsi dire, indéniable, qu'on ne pouvait pas revenir là-dessus, mais on n'a plus dit grand-chose de la chose en soi après ça, puisque par définition, il n'y a rien à en dire, donc on trouve peu de discours sur la chose en soi. Peut-être ce qui reste une différence importante entre des courants, ça serait quelle importance, justement, on donne, quelle extension on imagine que peut avoir cette chose en soi, c'est-à-dire toutes les connaissances que nous pouvons avoir des choses de l'univers. Est-ce que nous pensons que ça représente à peu près tout ce qui est réellement, tout ce qui est réellement cet univers, ou est-ce que nous imaginons qu'il nous échappe énormément d'aspects, qu'il y a énormément d'aspects auxquels nous n'avons aucun accès, que nous ne soupçonnons même pas puisque ça n'entre pas dans nos facultés. Voilà, ça reste, si vous voulez, une sorte de choix hein, qu'on peut faire. Est-ce qu'on pense que beaucoup se dérobent à nous ou pas? Mais bon, sur le partage, tout le monde est d'accord. Et bien entendu, donc, quand Castoriadis parle de ce qui se donne à nous est un magma, il veut dire le monde des phénomènes. Il fait bien sûr référence au monde des phénomènes de Kant. Et il dit que donc ce qui se donne à nous, les phénomènes, dès qu'on dépasse ce qu'il appelle la première strate naturelle, donc ce qui se manifeste de la manière la plus immédiate à nous, dès qu'on dépasse cette première strate, on constate très vite qu'on a des choses difficilement identifiables par des déterminations fixes. Le meilleur exemple qu'on donne depuis quelques décennies, c'est la physique quantique. Puisque le bouleversement que la physique quantique a apporté, c'est qu'on a découvert des entités, des choses, qui avaient certaines propriétés des corps et certaines propriétés des ondes en même temps. Donc, c'est un problème de catégorie. On a là un problème de catégorie. De quel côté on va les mettre? Dans quel ensemble? Dans quelle classe on va les ranger? Si elles ont à la fois des propriétés des uns et des autres. Et que ces propriétés sont contradictoires en plus. Donc il y a vraiment une antinomie. Si on les place sous la régulation des corps, elles ne peuvent pas être en même temps sous la régulation des ondes. Donc il y a vraiment un gros problème ontologique de classement des étants. Ou un problème logique, c'est-à-dire il faut revoir nos catégories. Voilà. Et donc ça, c'est un exemple typique de quelque chose qui échappe à nos déterminations, mais on pourrait objecter à Castoriadis qu'il suffit d'enrichir notre logique en fonction de ce qu'on découvre de nouveau. Donc ça, c'est parfaitement possible. Mais ce n'est pas contradictoire avec ce que lui dit, puisque lui dit que tout cet ensemble de phénomènes est toujours plus déterminable. On peut toujours étendre le champ des phénomènes, découvrir de plus en plus de choses, les comprendre de mieux en mieux. Il y a de plus en plus de champs qui s'ouvrent à notre connaissance. Donc, on continue à avancer, à transformer du déterminable en déterminé, mais on sait qu'il reste tout un champ de déterminable qu'on n'a pas encore déterminé et on ne sait pas jusqu'à quel point on pourra aller. Voilà, on ne sait pas où est la limite de ce qu'on pourra un jour connaître et de ce qu'on ne pourra jamais connaître. À propos de Kant, justement, Castoriadis fait remarquer qu'au début, quand Kant dit que nous n'avons accès qu'aux phénomènes, il insiste beaucoup sur le fait que toutes les régularités que nous leur attribuons aux phénomènes, par la science ou même par la connaissance courante, toutes ces régularités, toutes ces récurrences que nous observons, auxquelles nous sommes tout à fait habitués, toutes ces mêmes identités fixes, c'est-à-dire le fait que les choses restent globalement ce qu'elles sont, tout ça, il dit que c'est nous qui les mettons dans les phénomènes, et ce ne sont pas les phénomènes qui les possèdent par eux-mêmes. Et nous les mettons parce que nous avons justement des formes d'organisation, des formes de mise en ordre, des structures qui nous permettent de mettre en ordre le divers, l'extrême diversité qui nous arrive du monde extérieur. Et il y a donc des formes ordonnatrices, si vous voulez, de la sensibilité et d'autres de l'entendement. Les formes ordonnatrices de la sensibilité, c'est l'espace et le temps. Alors, donc c'est très curieux, ça c'est peut-être une des choses qui est au contraire le moins passée à la postérité, un des apports de Kant les plus étranges, c'est que l'espace et le temps ne sont pas dans le monde, ils ne sont pas dans les phénomènes, c'est nous qui les avons, ce sont des structures qui sont internes à nous et qui nous permettent d'organiser les objets sensibles. Parce que pour pouvoir percevoir une scène sensible, il faut évidemment positionner les objets dans l'espace relativement les uns par rapport aux autres. Sinon, on ne peut pas saisir un divers si on ne l'ordonne pas par des positions relatives. Des parties sont positionnées en se différenciant les unes des autres. Et ça, c'est le rôle de l'espace. Et de la même manière pour le temps, on a besoin de situer les choses sensibles, les choses qui nous arrivent par les sens, on a besoin de les situer dans une succession les unes par rapport aux autres. Si elles arrivent toutes en même temps, on a un chaos confus. Donc pour qu'il n'y ait pas de confusion, il faut qu'on puisse les faire se succéder les unes par rapport aux autres. Et ça, d'après Kant, c'est aussi une structure que nous avons en nous et qui n'est pas donnée par l'expérience. Donc c'est ça l'important en fait, c'est qu'il dit que si ça n'est pas donné dans l'expérience, si d'aucune manière nous ne pouvons sentir le temps et l'espace, alors il faut que nous les ayons en nous, c'est comme ça la démonstration, alors il faut que nous les ayons en nous, il faut que ce soit antérieur à toute expérience pour rendre possible justement, ne fût-ce que la toute première expérience. Et du côté de l'entendement, ce qui joue ce rôle de structure ordonnatrice, c'est ce qu'il appelle les catégories. Il en distingue 12, et je ne vais pas les citer toutes, mais parmi les 12, il y en a peut-être deux séries qui nous intéressent particulièrement par rapport à ce qu'on va voir par la suite, par rapport à ce qu'en dit Castoriadis. C'est la série des quantités et la série des relations. Donc, selon Kant, les trois formes de quantité, les trois formes principales de quantité, c'est-à-dire unité, pluralité et totalité, donc vous voyez que ça englobe toutes les quantités, unité, pluralité et totalité, eh bien ça ne nous est pas donné par l'expérience. C'est-à-dire ce n'est pas en regardant des choses sensibles qu'on peut acquérir le concept d'unité, de totalité et de pluralité. Il faut qu'on l'ait au départ et que grâce à ça, on puisse comprendre les choses. Donc ça, c'est pour les catégories de la quantité. Et les catégories de la relation, c'est notamment la relation sujet-attribut, la relation cause-effet et la complémentarité entre l'agent et le patient. Donc, ce qui agit, ce qui subit une transformation. Bon, la causalité, c'est une catégorie très importante parce que c'est là-dessus que portent beaucoup de discussions philosophiques à l'époque moderne, beaucoup de discussions entre sceptiques et philosophes qui essayent de fonder un certain savoir. La catégorie de la causalité, c'est une des choses qui est le plus discutée, le plus réfutée, objectée par le scepticisme. Et de fait, Kant, quand il propose cette critique de la raison pure, il exprime que c'est sous l'aiguillon du scepticisme de David Hume. David Hume, donc philosophe anglais, qui a pour théorie que il n'y a dans le monde aucune régularité, aucune détermination, rien de fixe, rien de stable, rien de récurrent. Donc il nie pas seulement la causalité, il nie aussi les successions régulières, il nie à peu près tout. Mais que nous avons juste l'habitude, c'est tout, de associer des phénomènes entre eux. Et que donc c'est nous qui mettons de la succession là où il n'y en a pas, par habitude. Bon, c'est un scepticisme très extrême. Et Kant, donc, très ébranlé par ça, se dit, si on laisse faire le scepticisme, alors il n'y a plus de connaissances possibles, alors il faut renoncer totalement à la vérité. Et donc, il entreprend justement de relégitimer la connaissance en disant, voyons jusqu'où nous pouvons avec certitude dire qu'il y a certaines connaissances possibles. C'est ça qu'il entreprend. Et c'est pour ça qu'il dit, mais voilà ce dont on peut dire avec certitude que nous avons en nous, sinon nous n'aurions même pas les expériences que nous avons, que nous savons, que nous avons. Enfin, je veux dire, de fait, nous voyons des choses ordonnées. On peut contester que cette ordonnance soit dans les choses, ça oui, mais on ne peut pas contester que nous voyons des choses ordonnées. Et que quand nous les voyons plusieurs fois, eh bien, elles ont gardé leur ordonnance, par exemple, ou si elles ont changé, on peut dire pourquoi, etc. etc. Donc voilà comment Kant propose donc que le monde soit ordonné par nous. Et toute nécessité, au début, il dit que tout ce qu'on peut dire de nécessaire sur le monde, donc de scientifique, en somme, parce que la science ne dit que des choses nécessaires, que des choses qui doivent être comme ça, qui ne peuvent pas être autrement. Puis si c'était contingent, on ne pourrait pas en avoir de science. Donc tout ce qui est nécessaire vient de nous, de nos structures, et non pas du monde. Donc ça, c'est dans un premier temps. Alors c'est pourquoi d'ailleurs ces structures, il les appelle des structures a priori, ou des formes a priori de la sensibilité et de l'entendement. Le a priori veut dire avant toute expérience. Le a posteriori étant ce qui est donné par l'empirique. Ou aussi, il les appelle transcendantales. Hein, le mot transcendantal ayant exactement ce sens-là. Transcendantal, c'est qu'il y a une condition, une possibilité de tout empirisme. L'empirisme n'est pas ce qui nous fait découvrir le tout du monde. Tout ne vient pas de l'empirique, de l'expérience, de la sensibilité, mais justement, il faut des conditions de possibilité de cet empirique, et c'est le transcendantal. Donc le transcendantal précède nécessairement l'empirique. Et voilà. Bon, donc là, dans un premier temps, il dit ça, et puis Castoriadis insiste sur le fait qu'il est obligé progressivement de reconnaître que, premièrement, le donné, hein, ce qui se donne, les phénomènes, est nécessairement déterminable par nos catégories, c'est-à-dire catégorisable, c'est-à-dire qu'il se prête à nos catégories. Donc il y est d'une certaine manière correspondant. Il y a une correspondance qui fait que nous pouvons le saisir. Si les phénomènes, si le monde qui nous est donné n'était pas déjà préadapté à nos catégories, il ne se donnerait pas. Je veux dire, on n'en aurait qu'un chaos. On ne pourrait pas, justement, en avoir une impression ordonnée. Ce serait impossible. Il se déroberait à tout ordre. Il se donnerait chaque fois de manière différente. On ne pourrait pas avoir des expériences récurrentes. On ne pourrait pas avoir des répétitions de la même expérience. On ne pourrait pas avoir même de la moindre stabilité. S'il n'y avait pas, d'une certaine manière, une adaptabilité du monde à nos catégories, aussi bien de la sensibilité que de l'entendement. Donc il doit accepter que le monde est déterminable par nous. Mais en plus, il faut même aller plus loin, et il faut dire que le monde, il est aussi, d'une certaine manière, déjà déterminé en lui-même. Il est déjà déterminé en lui-même. Je vais vous lire un petit extrait de la manière dont il exprime ça. Donc, le donné, avant même l'imposition de nos catégories, n'est pas un chaos totalement indéterminé. Sinon, donc d'une part, il ne se prêterait à aucune organisation, ou bien il se prêterait indifféremment à toutes. Et dans les deux cas, tout discours cohérent et toute action serait impossible. Tout discours cohérent, parce que dès qu'on dirait une chose, le divers aurait déjà été autre. Hein, un chaos, ça veut dire que se succéderait sans aucune logique, sans aucune nécessité, des choses complètement différentes. Et il ajoute, donc à propos du fait qu'il est aussi nécessairement déterminé, que je vais le formuler par un exemple. Si, justement, un exemple concernant la catégorie de la causalité. Si on prend l'exemple de lorsqu'il pleut, on constate que le sol est mouillé. Et bon, nous, on dit, en fait, il pleut. Enfin, c'est parce qu'il pleut que le sol est mouillé. La pluie est la cause du fait que le sol est mouillé. En admettant que la causalité soit une structure que nous donnons aux choses et que la causalité n'est pas dans la pluie n'est pas vraiment une cause, ou si vous voulez, c'est pas une cause réelle, c'est simplement nous qui interprétons de cette manière l'association des deux phénomènes. Hein, on associe deux phénomènes, pluie et sol mouillé, et on dit l'un est la cause de l'autre. En admettant même que la causalité soit un concept inventé par nous et que ça n'existe pas dans les choses. Par contre, ce qu'il est impossible qu'on invente tout à fait, c'est que toujours ces deux phénomènes se succèdent l'un à l'autre. Ça, c'est impossible que ce soit nous qui l'inventions. Toujours ces phénomènes se succèdent l'un à l'autre. Alors, ok, c'est peut-être pas des causes et des effets, mais c'est des successions, c'est des accompagnements qui sont nécessaires, enfin qui sont récurrents. Et donc, ça, c'est bien dans le donné lui-même, c'est bien dans le phénomène lui-même que ces deux phénomènes sont constamment associés l'un à l'autre, s'accompagnent constamment l'un à l'autre. Donc, par conséquent, il y a déjà une certaine détermination dans le réel, indépendamment de ce qu'on dit de lui. Pas indépendamment de la manière dont nous le percevons, bien sûr. Il faut que nous la voyons, la pluie, etc. Mais on peut déjà dire que, donc, non seulement le divers du monde est organisable, mais en plus, il est déjà un peu organisé lui-même, ses successions viennent vraiment de lui. Bon, alors, pourquoi est-ce qu'il dit tout ça ? C'est parce que ça vient vraiment, il peut vraiment appuyer là-dessus sa théorie du magma. Il reste qu'un petit pas à faire pour avoir un magma à partir de cette caractérisation des phénomènes qui est kantienne. les phénomènes, c'est quoi? C'est un ensemble indéfini de choses qu'on ne peut pas parcourir en totalité, qu'on peut envisager partie par partie à partir de nos structures organisantes, et donc qui se soumet, qui s'adapte, qui est correspondant à la logique ensembliste identitaire, mais dont des parties ne se soumettent pas à cette logique. Et donc là, vous avez la définition du magma. Donc en fait, voilà, la définition du phénomène chez Kant est presque déjà la notion de magma chez Castoriadis. Et donc, comment agit alors la logique identitaire là-dessus? Encore un petit extrait. Nous avons à penser les opérations de la logique identitaire comme de multiples dissections. C'est comme si on découpait dans une matière informe quelque chose de formable, de structurable. De multiples dissections simultanées qui transforment ou actualisent ces singularités virtuelles. Très important les mots actualiser et virtuel, puisque ça veut dire qu'il y a quelque chose là qui est déjà potentiel. Il y a déjà un arrangement, une organisation potentielle, et nous ne faisons que l'actualiser. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous attend, qui est prêt là pour nous, pour que nous le connaissions, pour que nous lui appliquions nos catégories. Ces ingrédients, ces termes, donc que nous les organisions en éléments distincts et définis, solidifie la pré-relation de renvoi en la relation. Donc il y a une pré-relation de référence, de renvoi entre ces choses, donc d'association, d'accompagnement de ces choses les unes avec les autres. C'est une pré-relation tant qu'elle n'est pas définie, distincte, tant qu'elle n'est pas structurée, tant qu'on n'en dit pas la raison, la cause, etc. Et donc, une fois que la logique identitaire vient se poser dessus, justement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle transforme cette pré-relation en une relation au sens déterminé du terme. Organise donc par exemple le tenir ensemble, l'être dans, l'être sûr, l'être prêt, donc toutes sortes de relations entre les choses, en système de relations déterminées et déterminantes, qui deviennent alors identité, différence, appartenance, inclusion. Tous ces termes-là sont des concepts de la logique identitaire. Ce n'est pas directement dans les choses, mais les choses se prêtent à cela. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'on leur fait violence, et si vous voulez qu'on plaque artificiellement sur le réel, sur les phénomènes, des choses qui leur sont complètement étrangères. Non, c'est des virtualités que nous révélons. C'est des déterminabilités que nous déterminons. Et donc tout cela différencie ce qu'elle distingue ainsi en entité et propriété, utilise cette différenciation pour constituer des ensembles et des classes. Entité et propriété, ça renvoie de nouveau à sujet et attribut. Un autre point d'achoppement de toute philosophie, comment est-ce qu'on distingue, comment est-ce qu'on fait la différence entre le sujet et l'attribut? Le sujet, c'est censé être la chose qui existe par elle-même et non pas dans une autre. L'attribut étant défini comme ce qui n'existe que dans autre chose. Si vous prenez par exemple une couleur, ou une mesure, ben, ça ne peut exister que dans un corps. C'est parce qu'un corps est coloré qu'existe la couleur. Par contre, le corps lui-même, on considère que c'est un sujet, puisqu'il reçoit tous ses attributs, ou il fait ses actions, il subit ses passions. Mais lui, il n'est plus dans autre chose, il n'a plus un autre support dont il est un attribut. Mais cette différence, elle est extrêmement contestée. Bon, je vais y revenir un petit peu plus loin dans l'exposé. Et bon, donc pour Kant, ça fait partie justement de nos catégories. Ça fait partie des choses sans lesquelles nous ne pouvons rien comprendre, sans lesquelles nous ne pouvons pas ordonner les phénomènes, mais qui ne sont pas en eux-mêmes directement, qui sont en nous. Alors, le langage est lui aussi un tel magma, un tel réservoir d'identification et de relations qui sont déterminables, mais dans lequel on ne pourra jamais épuiser tout le déterminable. Et pourquoi? Alors pourquoi le langage, il a cette extraordinaire richesse qui fait qu'il déborde toujours tout ce qu'on peut identifier de manière précise et univoque? Alors la partie identificatrice ou la fonction identificatrice dans le langage, c'est le code. C'est la notion de code. Un code, c'est par exemple un code mathématique, c'est-à-dire un système de signes qui renvoie à un système de signifier, de signification, de définition, de théorème, qui correspondent, enfin pas de théorème encore, ça c'est, il y a trop d'ensemble là, mais donc c'est un système de signes auquel correspondent un ensemble, un système de signification de ces signes. Donc, par exemple, le signe infini en mathématiques. Donc, on a d'une part le signe infini, et d'autre part, la signification, que signifie en mathématiques le mot infini. Et tout ça fait système, je veux dire, toutes les significations mathématiques sont en relation les unes avec les autres, de même que les signes sont mis en relation avec les autres, les uns avec les autres dans des équations, etc. Donc ça, c'est un code. Même chose, par exemple, pour le code de la route, dont je vous ai déjà fait, remarquer le caractère extraordinairement conventionnel. Donc on invente une série de signes qu'on met en relation avec une série d'injonctions, d'interdits ou d'obligations liées à la circulation routière, et il doit y avoir une correspondance, c'est là l'important, une correspondance biunivoque entre les deux. Biunivoque, ça veut dire que chaque signe exprime une seule signification, et chaque signification est exprimée par un seul signe. C'est biunivoque. Donc dans les deux sens, on a une univocité, il ne peut pas y avoir d'ambiguïté, il ne peut pas y avoir un signe qui signifie deux choses à la fois, sinon le code ne fonctionne pas. Donc ça doit être une relation biunivoque. Et donc des codes biunivoques comme ça, ils ne peuvent être obtenus que par une convention très explicite. Il faut vraiment qu'on se mette d'accord, qu'on décide que ceci est un code pour cela, et qu'on se mette d'accord non seulement pour utiliser tout le temps, tous, partout, les mêmes signes, mais aussi qu'on se mette d'accord sur les signifiés qu'on y attache. Il ne faudrait pas, par exemple, que dans une autre culture, l'infini mathématique signifie autre chose. Sinon, on ne peut plus se comprendre. On utilisera peut-être le même signe, mais il évoquera autre chose dans la tête de personnes différentes. Non. Pour que ce soit un code biunivoque, il faut aussi qu'on se soit parfaitement entendu sur ce que ça signifie exactement, sur les significations. Autant dire que dans le langage courant, ça ne fonctionne pas comme ça. Le langage courant n'est pas du tout biunivoque. Vous avez des tas de signes qui signifient plusieurs choses, tous pour ainsi dire, et vous avez des tas de choses qui peuvent être dites par plusieurs signes. Donc, bien entendu, le langage est tout sauf univoque. Il y a cependant une certaine visée identificatoire dans le langage qui est attestée, par exemple, par les dictionnaires. Quand on fait un dictionnaire, ça veut dire qu'on essaye d'énumérer les différents usages possibles, les différentes significations d'un signe, pour au moins en régler l'usage, pour au moins en unifier l'usage, pour au moins se mettre d'accord sur les différentes significations possibles et en vigueur. Mais les dictionnaires, ils sont dépassés, pour ainsi dire, dès leur parution, parce que constamment, la langue admet de nouvelles significations et de nouveaux mots, de nouveaux signes. Donc constamment, les dictionnaires doivent se renouveler parce que la langue courante, la langue vivante, c'est pour ça qu'elle est vivante, elle change. Et donc, elle s'adjoint du nouveau. Alors ça, c'est important aussi, parce que là, de nouveau, on a une caractéristique du magma. Le magma, il progresse comme ça dans de nouvelles déterminations parmi tout ce réservoir d'indéterminés. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que dans ce genre de magma, le nouveau n'écrase pas l'ancien. Le nouveau ne détruit pas l'ancien. Il vient s'ajouter, modifier l'ancien, mais il le conserve. Et c'est absolument essentiel dans une langue, parce que si on oubliait les significations passées, on ne pourrait plus lire d'anciens livres, on ne comprendrait plus d'anciens textes. Et c'est ce qu'il dit de manière, je trouve, assez belle, en disant « Donc, la langue, dans son rapport aux significations, nous montre comment la société instituante, donc celle qui produit constamment du nouveau, est constamment à l'œuvre, et aussi, comme cette œuvre qui n'existe que comme instituée, ne bloque pas le faire instituant continué de la société. L'institué ne bloque pas l'instituant. C'est pas parce qu'on a assis, fixé une série de déterminations que pour autant on s'arrête d'en produire. Il est essentiel que la langue reste la même en ne restant pas la même, et réciproquement. Elle reste la même, c'est toujours le corpus de la langue française qui évolue progressivement, et en même temps elle ne reste pas la même, puisque de fait, les usages se modifient et on ajoute d'autres mots, et on en perd d'ailleurs certains. Il n'y aurait ni langue, ni société, ni histoire, ni rien, si un français ordinaire d'aujourd'hui n'était pas capable de comprendre aussi bien le rouge et le noir, l'œuvre, le rouge et le noir, ou même les mémoires de Saint-Simon, aussi bien qu'un texte novateur d'un écrivain original. Il n'y aurait pas d'histoire, évidemment, puisqu'il n'y aurait plus de transmission, il n'y aurait plus de mémoire. La mémoire passe par la langue, et donc forcément, il faut que les significations anciennes demeurent, même si elles sont éventuellement légèrement modifiées par les significations nouvelles. Oublier cela, ce serait oublier cette autre fonction fondamentale de la langue, qui est d'assurer à toute société un accès à son propre passé. Donc grâce à ça, voilà, on a accès à notre propre passé. Et c'est la même chose dans une société. Il faut bien se représenter qu'une société, par rapport à son histoire, ne peut jamais l'effacer. Elle n'efface pas son histoire. Elle rajoute des couches, elle modifie certaines structures, mais toujours elle garde la mémoire de ce qui était avant. Et même si elle voulait effacer cette mémoire volontairement, elle n'y arriverait pas. Parce que dans le nouveau qu'elle a institué, elle est venue transformer de l'ancien, mais elle l'a inclus en le transformant. Elle l'a inclus, elle l'a intégré en le transformant. Donc elle ne pourrait pas effacer de toute façon sa mémoire. Alors, donc non seulement le langage est un magma parce qu'il s'enrichit constamment de nouvelles déterminations, et donc il reste un potentiel indéfini comme ça, indéfini. On ne sait pas jusque quand et jusqu'où on pourra l'augmenter, mais a priori, ça n'a pas de fin. Donc non seulement ça, mais même si on prend une signification instituée, une signification établie, cette signification d'un mot, en réalité, elle cache une multiplicité de relations avec d'autres significations qui sont évoquées dès qu'on évoque ce mot. Et c'est une multiplicité vraiment, elle aussi, extrêmement étendue. On ne s'en rend pas toujours compte. Enfin, quand on a un usage normal des mots, donc avec une certaine rapidité, on ne pense pas à tout ce que le mot évoque. Mais si on s'y arrête, on se rend compte que, oui, il évoque des tas de choses et des choses différentes selon les personnes. D'où les risques de malentendus chaque fois qu'on parle. Chaque fois qu'on parle, on peut dire un mot et l'autre le comprend d'une manière pas tout à fait la même. C'est à cause de cette extensibilité intrinsèque au langage. De nouveau, un petit passage que je vous lis associé à cette idée qu'il y a une multiplicité d'associations possibles à partir d'un seul mot. Il dit donc, qu'est-ce qu'une signification ? Nous ne pouvons la décrire que comme un faisceau indéfini de renvois interminables à autre chose. Ces autres choses sont aussi bien des significations que des non-significations. Donc ça peut renvoyer un mot peut renvoyer, donc mis à part sa signification la plus directe qui est visée dans la communication, il peut renvoyer à d'autres significations, des choses un peu annexes auxquelles il nous fait penser. Et il peut renvoyer aussi à d'autres choses que des significations, c'est-à-dire à des choses, à des référents hors langage. Et c'est pour ça qu'on peut aussi partir sur une rêverie, sur une digression à partir d'un mot, hors de la conversation présente, décrocher d'une conversation en partant sur tous les renvois auxquels peuvent nous mener un seul mot. Donc, ce à quoi les significations se rapportent ou se réfèrent. La signification pleine d'un mot, pleine, donc vraiment, si on essaye de totaliser toute sa richesse, est tout ce qui, à partir ou à propos de ce mot, peut être socialement dit, pensé, représenté, fait. Et il insiste sur le socialement. Il dit que ce n'est pas seulement tout ce qu'un individu particulier, avec sa propre histoire, peut imaginer, penser, se représenter à partir d'un mot. C'est tout ce qui est possible dans sa société, par tous les individus de sa société. Tout ça, en fait, est attaché à un seul mot, à la signification d'un seul mot. Tout ça fait d'une certaine manière partie de la signification d'un seul mot. Tous les renvois, toutes les références auxquelles ça peut nous faire penser. Autant dire qu'on ne peut guère lui assigner des limites déterminées, péras. Donc péras, c'est le mot grec pour dire la limite. Et on va voir tout à l'heure son opposé, apeiron, qui est l'illimité. Et bon, on va voir que cette discussion sur la limite, l'illimité, elle est très ancienne. Elle remonte aux pythagoriciens et à Platon, au moins. Donc, il est très difficile de mettre une limite à cette capacité, à cette possibilité de renvoi à de multiples termes associés. Je poursuis la citation. « Certes, ce faisceau de renvoi dont chacun aboutit à ce qui est origine de nouveaux renvois, est loin d'être un chaos indifférencié. » Donc revoilà la mise en garde. Attention, ne pensons pas que c'est n'importe quoi. On n'associe pas n'importe quoi à n'importe quoi. Il y a une certaine régulation, même si elle est très libre. C'est pas n'importe quoi. C'est pas un chaos. Ça ne vient pas dans n'importe quel ordre. On peut y retrouver des choses qui sont plus susceptibles d'être associées. Et voilà, en fait, dans la suite de la citation, la justification du terme magma. C'est là la justification du terme magma. Dans ce magma, il y a des coulées plus épaisses. Donc vous voyez, il file la métaphore volcanique là. Magma volcanique. Dans ce magma, il y a des coulées plus épaisses, des points nodaux, donc des nœuds où se concentrent des choses, des zones plus claires ou plus sombres, des bouts de rocailles pris dans le tout. Mais le magma n'arrête pas de bouger, de gonfler et de s'affaisser, de liquéfier ce qui était solide et de solidifier ce qui n'était presque rien. Et c'est parce que le magma est tel que l'homme peut se mouvoir et créer dans et par le discours, qu'il n'est pas épinglé à jamais par des signifiés univoques et fixes des mots qu'il emploie. Autrement dit, c'est pour cette raison que le langage est langage. C'est ça qui fait le langage. Donc vous voyez que son magma, son concept, il peut l'expliquer seulement par métaphore. Et on voit pourquoi il a pris cette image de la lave en fusion. Parce que dans la lave en fusion, alors effectivement, ça se transforme constamment et il y a des solidifications, c'est-à-dire, si vous voulez, des fixations, des mots qui, ou des significations de mots qui restent stables plus longtemps que d'autres, qui évoluent moins vite. Il y a des coulées plus épaisses, ça veut dire des associations qu'on fait plus volontairement, que spontanément on va être amené à faire, ou qui sont bien sûr culturellement déterminées, bien entendu, on y est porté parce que c'est dans notre culture de faire ces associations. Donc ça, ce sont les coulées épaisses vers lesquelles la lave a tendance à s'agglutiner, etc. Donc on voit bien qu'il y a une certaine justification à avoir choisi ce concept-là. Mais c'est de la métaphore, bien entendu. Bien d'accord sur le fait que c'est de la métaphore. Alors la conscience de cette malléabilité du langage, qui n'est pas infinie, pour une fois, on ne dit pas n'importe quoi, on ne construit pas un discours n'importe comment. Mais enfin, cette malléabilité quand même des significations, avoir conscience de ça, ça peut être utile pour comprendre et pour déjouer éventuellement l'utilisation du langage par les pouvoirs institués. Par exemple, dans les pouvoirs institués ont tendance à restreindre les significations des mots à ce qui les intéresse eux, à un sens unique qui les intéresse, qui est celui qu'elles veulent privilégier. Si on dit, alors c'est très clair pour des mots comme démocratie ou politique, quand on pense démocratie, nous savons qu'il y en a des multiples formes, que ça évoque des multiples pratiques qui ont existé historiquement ou qui peuvent exister ou qui existent marginalement, etc. etc. Donc on voit bien, on peut se représenter une multiplicité d'exemples et de formes différentes de démocratie, mais en réalité, quand le pouvoir institué parle de démocratie, il entend uniquement le type de régime actuellement réalisé. Et c'est très important pour lui qu'on ne pense pas à autre chose, qu'on pense à ça uniquement. Même chose pour politique. Si on pense à tout ce qui évoque pour nous politique, politique, c'est la décision prise ensemble, c'est la réflexion sur les valeurs qui guident la société, c'est la prise de décision sur ce qui intéresse une certaine communauté. On peut déterminer la politique de manière assez différente, et là encore, on a une multiplicité d'exemples de types de politiques réalisées, et réalisables d'ailleurs. Mais quand le pouvoir institué utilise le mot politique, il veut dire le gouvernement de l'État tel que lui l'exerce. Et uniquement ça. La politique, écoutez les médias, quand ils parlent de la politique, c'est n'est jamais que ça. Jamais que ça. Il y a d'autres exemples, comme par exemple quand on dit valorisation pour commercialisation, valorisation d'un produit ou d'une invention ou d'une découverte. Valorisation, ça veut dire commercialisation. On pourrait penser que c'est juste un euphémisme, parce que on a encore un petit peu peur d'assumer totalement cyniquement le fait que tout ce qui est intéressant, c'est le commerce. Mais ce n'est pas seulement un euphémisme, c'est aussi une restriction de l'usage. Parce que valorisation, ça veut dire le fait de donner de la valeur à quelque chose. Donner de la valeur, ça peut se faire sous de multiples formes. Mais non, là, on le restreint à cette seule forme-là, la valeur commerciale. Donc c'est intéressant de penser champ sémantique large. D'avoir tout le temps à l'idée cette idée de champ sémantique, en fait, beaucoup plus large que ce qui est sélectionné à chaque fois. Alors, donc, le langage, il est un magma, on l'a vu, parce qu'il a tout le temps des nouvelles significations qui apparaissent, parce que ces significations renvoient à chaque fois à d'autres, donc ont un champ sémantique extrêmement large, et aussi, donc, comme je vous avais dit, parce que les référents eux-mêmes, les référents hors du langage, eux-mêmes ne sont pas, en fait, des objets qui ont une identité tout à fait fixe et univoque. C'est-à-dire, les objets eux-mêmes ne sont pas une seule chose, n'ont pas un seul aspect, ne sont pas déterminables par une seule caractéristique. Au contraire, les objets, chaque objet est une multiplicité de déterminations, porte une multiplicité de déterminations. Ici encore, une petite citation. Le nom d'un individu, que ce soit une personne, une chose, un lieu ou quoi que ce soit, comprend donc dans sa singularité, un individu. Donc l'individu table et non pas toutes les tables, etc. Donc le nom d'un individu renvoie à l'océan interminable de ce que cet individu est. Il n'est son nom qu'en tant qu'il réfère virtuellement, donc virtuellement, et de nouveau, possiblement, potentiellement, mais il ne réalise pas tout ça dans notre esprit à chaque fois qu'on prononce le nom, mais virtuellement il est tout ça, à la totalité des manifestations de cet individu le long de son existence. Effective et possible, donc des manifestations effectives et possibles. Donc si vous prenez le nom de quelqu'un, il cite l'exemple de Pierre, quand on pense à Pierre, par exemple, quelqu'un qu'on connaît, son nom renvoie en fait à tous les moments d'existence de Pierre, à toutes les actions que Pierre a faites dans sa vie, à toutes les rencontres qu'il a faites, à toutes ses qualités, à toutes ses déterminations physiques, mentales, intellectuelles, bref, à une infinité d'aspects qui composent ce Pierre. Et il ajoute même, donc, effective ou possible. Et l'exemple des déterminations possibles, c'est quand on dit « Pierre ne ferait pas cela ». Pierre ne ferait pas cela, il ne l'a pas fait. Donc, ce n'est pas quelque chose qui appartient à son histoire réalisée. Mais c'est une possibilité qu'on lui nie. Non, ça, Pierre n'est pas capable de faire ça. Il ne le ferait pas. Donc, même ça, même les aspects qu'on nie d'une personne font encore partie de cette personne. Que l'on pense à ce qui est requis pour donner un sens à l'expression, et alors ici on a une petite phrase, l'observation a été faite à 12h21min7s du 23 novembre 1974 par x degré de latitude nord et y degré de longitude est référé à tel méridien. Donc voilà, une petite phrase bien scientifique. Réfléchissez à tout ce qu'il faut comme renvoi pour comprendre cette phrase, pour qu'elle ait un sens. Vous la lisez à quelqu'un qui n'est pas d'une culture scientifique européenne de ce siècle, aucun mot ne fait sens pour lui, pour ainsi dire. Même s'il comprend la langue, je veux dire, même si c'est pas un stade de langue, mais aucun mot ne fait sens pour lui. Bon, alors, reprenons-les. L'observation, on pourrait déjà chicaner sur le mot observation, qu'est-ce que ça veut dire dans un contexte, effectivement, de science. Bon. Mais surtout, 12h21min7s, on a vu l'institution sociale du temps. Ça renvoie évidemment à un certain type d'institution de découpage du temps. Du 23 novembre 1974, là ça renvoie toujours au découpage de l'année en mois, du mois en un certain nombre de jours, complètement arbitraire, on aurait pu tout à fait les diviser autrement. Et l'année 1974, alors à partir de quoi? On a commencé à compter à partir de quand? La naissance du Christ, c'est quoi le Christ? C'est le Fils de Dieu. C'est quoi Dieu? C'est une religion. C'est quoi une religion? Etc, etc. Et dans le fait même de citer une année par son nombre, par son numéro, on renvoie en fait à toute l'institution qui est commandée par la religion chrétienne, toute l'institution de comptage, en fait, de repérage de l'histoire, quoi, d'une certaine ère historique. Bon, alors, les méridiens, les latitudes, etc., même chose, c'est quelque chose qui renvoie à toute la compréhension du découpage de la Terre, toute la connaissance précise, scientifique de la Terre et de la manière dont on peut distinguer sur elle des courbes abstraites, etc. Voilà pour illustrer cette infinie diversité dès qu'on commence à s'interroger sur une signification d'un mot. Et ça n'empêche pas que le langage fonctionne et que la communication fonctionne et qu'on n'a pas besoin de chaque fois expliciter tout ça, évidemment, dans une conversation ordinaire, parce qu'on a un fond culturel partagé, donc on n'a pas besoin de revenir dessus. Et ça n'empêche pas non plus qu'au moment où on le dit, on n'a pas à l'esprit tout ça. On n'a pas besoin d'avoir cette signification pleine à l'esprit, sinon on s'arrêterait pendant une heure à chaque mot. Donc, on peut dire que la détermination est suffisante quant à l'usage. Quant à l'usage, c'est suffisant. Et si on éprouve le besoin de préciser, on le demande, on dit « mais tu veux dire ça ou ça ?» quand c'est un peu ambigu, etc. On peut préciser. Alors, la linguistique, ajoute Castoriadis, la linguistique, elle a proposé différents instruments pour essayer d'ordonner justement cette multiplicité des significations ou d'indiquer des limites, des différenciations claires entre différents usages d'un mot. Et par exemple, elle a introduit la distinction entre sens propre et sens figuré. Hein, déjà pour essayer de montrer, bon, dans une signification, il y en a quand même une qui est principale. Il y a un sens ou un usage qui est principal dans un mot, c'est le propre. Et tout le reste est un peu plus dérivé, un peu plus secondaire, un peu plus éloigné, donc on l'appellera plutôt figuré. Mais Castoriadis doute du bien fondé de cette distinction, parce que pour lui, aucun sens n'est vraiment propre. Il n'y a jamais vraiment de sens propre. Et il cite en exemple une phrase qui a l'air totalement anodine, qui est « J'ai fait un rêve ». Phrase de psychanalyste, évidemment. « J'ai fait un rêve ». Si on prend chaque mot de cette phrase, on se rend compte que on n'a absolument pas affaire à un sens propre. On ne pourrait pas déterminer quel est le sens propre de ce mot. « Je », par exemple. Voilà, « je ». Alors, évidemment, un problème de psychanalyste, c'est quoi « je »?« Je », ça recouvre, dit-il, un abîme. C'est un abîme, « je ». Quand on dit « je », on se réfère à quoi ? On se réfère, et c'est qui le jeu qui fait le rêve? C'est le jeu conscient, le jeu inconscient, c'est le jeu qui a eu tel et tel événement dans sa vie, c'est le jeu qui a eu telle histoire, auquel il vient d'arriver tel événement. C'est quoi jeu, hein? Donc, quel est le sens propre de jeu? Ça n'a pas de sens de dire quel est le sens propre ou le sens figuré de jeu. Alors, si on prend faire, hein, dans j'ai fait un rêve, faire, quel est le sens propre de faire? Est-ce que faire un rêve, c'est plus ou moins figuré que faire un enfant, faire le malin, faire un devoir? Quel est le sens propre de faire? Rêve, non, pardon, il ne prend pas rêve, il prend un. L'article 1, un. Quel est le sens propre de un? Quelle est l'unité dont on pourrait dire quelle est l'unité au sens propre du terme? Alors qu'on a une multiplicité d'unifications possibles. Des modes d'unité, il y en a plein. Il y a des modes d'unité par agrégat, ou bien par logique, hein, un ensemble logique, c'est une unité, ou bien par le lieu occupé, hein, le lieu forme une certaine unité, etc., etc. Il y a de multiples formes d'unité. Quel est le sens propre de un? Et qu'est-ce qui unifie au sens propre un rêve? Où est-ce qu'on peut dire qu'un rêve commence et où il devient un autre? Il n'y a pas de sens propre. Donc voilà comment on peut douter effectivement que ces tentatives pour essayer donc de limiter, hein, le foisonnement des significations, comment en fait elles ne sont pas très convaincantes. Un autre exemple qui est d'instrument que les linguistes ont proposé pour ordonner les significations, c'est la distinction entre dénotation et connotation. La dénotation est censée indiquer ce qu'une chose est globalement et de manière permanente, tandis que la connotation est censée désigner certains aspects particuliers de cette chose, par laquelle on peut aussi la désigner, mais qui ne désigne pas le tout. Un exemple, celui qu'il donne, c'est Napoléon est une dénotation, hein, parce que ça renvoie à une personne dans l'ensemble, hein, comme on disait tout à l'heure, de toute son histoire et de toutes ses actions. Tandis que on peut dire de multiples connotations à propos de Napoléon, par exemple, qu'il est le vainqueur d'Austerlitz, hein, qu'il est le prisonnier de Sainte-Hélène, qu'il est celui qui a fait ceci, cela. Et vous voyez bien que cette distinction linguistique, au fond, est correspondante de la distinction ontologique entre sujet et attribut. Napoléon est censé désigner le sujet en tant que cette totalité permanente qui ne change pas s'il change certains de ses attributs. Hein, si Napoléon, si on lui retirait l'un des événements de sa vie, il n'en resterait pas moins Napoléon. Hein, si on lui retirait l'une des caractéristiques physiques, par exemple, qu'il avait, il n'en restera pas moins Napoléon. Et donc, c'est ça qui distingue le sujet par rapport aux attributs. Donc, dénotation, connotation, finalement, ça renvoie à la distinction sujet-attribut. Mais depuis le début de l'histoire de la philosophie, on met cette distinction en question, comme j'y ai fait allusion tout à l'heure, parce que on sait bien que si on enlève tous ces attributs à un sujet, il ne reste rien. Qu'est-ce que c'est que Napoléon sans l'ensemble de ses attributs? Rien. Et si on dit, mais justement, c'est la totalité, hein, c'est la totalité de ses attributs, comment est-ce que quelqu'un pourrait penser la totalité des attributs, d'une personne. Et ici, on prend un individu, mais on pourrait prendre une chose non vivante, on pourrait prendre l'univers. Enfin bon. Comment est-ce qu'on peut penser ou saisir la totalité des attributs de quelqu'un? C'est strictement impossible. Et Aristote disait déjà qu'il n'y a pas de définition de l'individuel, du singulier, d'un individu, parce qu'elle serait infinie. Si on voulait déterminer, donc définir, déterminer précisément un individu, c'est-à-dire le différencier de tous les autres, on devrait donner une infinité de caractéristiques. Un individu, c'est une totalité. Alors, en principe, si vous voulez, en principe, elle est finie, puisqu'on n'a pas une existence infinie, on a un nombre de moments de notre histoire qui est fini, mais qui est tellement innombrable que personne ne peut les saisir dans sa totalité. Même chose pour l'ensemble de nos caractéristiques coexistantes, enfin, qui nous accompagnent toute la vie. Donc cette distinction entre dénotation ou connotation, entre substance et attribut, elle n'est pas vraiment efficace. Elle est efficace jusqu'à un certain niveau, c'est-à-dire qu'encore une fois, elle est commode dans le langage, elle est commode quant à l'usage, elle est commode quant à la classification logique. Et il faut la garder néanmoins. Même si on dit qu'elle n'est pas parfaite, qu'elle n'est pas assez précise, il faut la garder. Pourquoi? Eh bien, on en a une attestation là aussi depuis le début de l'histoire de la philosophie, c'est que si on la supprime, alors tous les sophismes sont possibles. Et l'œuvre de Platon, elle est consacrée en partie à dénoncer les sophismes qui utilisent justement le manque de distinction ontologique ou linguistique, les deux étant correspondants. Par exemple, un sophisme qui était courant à l'époque, enfin bon, c'était une époque où on découvrait le sophisme, alors il y a beaucoup de monde qui s'amusait à en produire, manifestement, ils ont beaucoup joué à ça, et puis le philosophe, il s'est dit, bon, il faut un peu remettre de l'ordre dans tout ça, et un exemple de sophisme, c'était, bon, on prend un individu, Clinias, il s'appelle Clinias, et on dit, Clinias n'est pas savant, et on veut le rendre savant, donc, on veut le rendre autre qu'il n'est. Puisqu'il n'est pas savant et qu'on veut le rendre savant, on veut le rendre autre qu'il n'est. Si on veut le rendre autre qu'il n'est, par conséquent, on veut le détruire ce qu'il est. Mais si on veut détruire ce qu'il est, on veut le tuer. Donc, voilà, le sophisme, donc, vous voulez tuer Clinias en l'instruisant. Et là, évidemment, on voit bien où sur quoi porte l'erreur de raisonnement, c'est qu'on a confondu ce qu'il est en tant qu'être vivant et ce qu'il est en tant qu'une de ses caractéristiques possibles, est-ce qu'il est savant ou pas savant. Même chose avec la distinction entre Socrate debout et Socrate assis. C'est vraiment un topos. Après, ça revenait tout le temps dans la littérature de l'époque. Oui, bon, Socrate debout, Socrate assis. C'était la tarte à la crème de la logique élémentaire. Bon, si on dit que Socrate debout est autre que Socrate assis, ce qu'on est bien obligé de dire, parce qu'il y a quand même une différence entre les deux, donc on dit c'est autre, mais alors Socrate est autre que lui-même. Alors Socrate n'a pas de permanence. Socrate n'est pas un individu unique. Etc, etc. Et tout ça, chaque fois, on en revient à dire, mais si, Socrate, c'est ce qui reste permanent, c'est le sujet permanent de tous ces attributs changeants. Et dans ces attributs changeants, on ajoute, il y en a certains qui ne peuvent pas lui être retirés, parce que sinon, il ne serait plus, justement, du tout ce qu'il est. Là, on atteindrait quelque chose de fondamental en lui, ou d'essentiel en lui, et par exemple, si on lui retirait la qualité d'être humain, bon, il serait vraiment... autre que Socrate, il ne serait plus Socrate, sauf si, comme dit Ionesco, mon chat s'appelle Socrate. Mais... Alors, mais ce serait tout différent, évidemment, que de simplement lui retirer sa couleur pour lui en donner une autre. Bon, donc on doit garder ces distinctions. On ne peut pas penser sans ces distinctions. On ne peut pas se comprendre sans ces distinctions. Mais on doit savoir qu'elles sont absolument imprécises, qu'elles n'ont pas de limite exacte, et qu'elles se font sur un fond d'indétermination et qu'elles sont indéfinies, qu'on n'arrivera jamais à essayer d'approfondir la distinction pour arriver à une définition plus précise. Oui, alors je passe une petite digression sur le principe de non-contradiction. Si jamais vous avez envie, on peut y revenir éventuellement après dans la discussion. Tout ça, c'est lié au principe de non-contradiction, en fait. Le principe de non-contradiction a été aussi énoncé pour la première fois pour ça, pour dire qu'il y a certaines distinctions qu'on ne peut pas ne pas faire. Sinon, tout langage est impossible. et toute pensée est impossible, et le réel n'est plus qu'un chaos indifférencié. Donc il a été instauré pour ça, précisément. Et donc, une dernière tentative linguistique, et puis on termine sur ce point-là, une dernière tentative de la linguistique pour ordonner ou mettre des limites dans le foisonnement des significations, ça a été de dire que le contexte, en fait, est limitant pour l'essence d'un mot. C'est-à-dire, quand on dit un mot hors contexte, son champ sémantique est totalement ouvert. Mais quand on dit un mot dans un certain contexte, il est déjà déterminé par le contexte. On ne s'attend pas à la même signification étant donné le contexte. Et ce contexte peut être aussi bien le contexte linguistique, par exemple le livre où il apparaît, ou la conversation dans laquelle il est prononcé, qu'un contexte extra-linguistique, par exemple le lieu dans lequel on se trouve. Par exemple, si on se dit, si on prononce la phrase « on se sent bien ici », le « ici » est extrêmement indéterminé, mais si en même temps on a le contexte, on sait dans quel lieu on se trouve au moment où on le dit, alors on sait que le « ici » c'est le théâtre Tourski, non ? Mais Castoriadis ajoute aussitôt que le contexte, en fait, n'indique pas grand-chose parce que lui-même est très indéfini, ou plus exactement, est susceptible d'être défini de multiples manières. Parce que quand je dis « on se sent bien ici », même si je suis au théâtre Tourski et que, bon, il y a de grandes probabilités que je me réfère à ce lieu, je peux aussi bien vouloir dire « ici à Marseille » ou « ici en France » ou « ici sur Terre » même. C'est en fonction d'autres relations que j'aurai. Parce que je suis en train de parler, par exemple, de catastrophes naturelles qui sont arrivées sur un autre continent et que je dise « on se sent bien ici parce qu'on n'y est pas sujet ». Donc, le contexte lui-même n'est pas d'emblée déterminé. Si on voulait vraiment le déterminer tout à fait, on devrait ajouter beaucoup de choses. Et il ajoute encore ceci de tout à fait remarquable, c'est que la phrase elle-même crée son contexte. Alors ça, c'est un exemple, moi, qui m'a beaucoup amusé. C'est si on dit « Pierre se trompait », si on dit la phrase « Pierre se trompait », la phrase crée son contexte parce que l'interlocuteur va se dire « Ah oui, Pierre, hier, dans cette discussion qu'on a eue, on n'était pas d'accord, et tu rappelles maintenant que Pierre se trompait dans cette conversation. » Donc, c'est la phrase qui a créé le contexte. On s'est remémoré le contexte parce que la personne à laquelle on fait référence, elle est associée à ce contexte. Mais si on dit maintenant « Parménide se trompait », c'est pas du tout hier dans une conversation que Parménide se trompait, c'est sa théorie philosophique dont on dit qu'elle est une erreur au regard de toute l'histoire de la philosophie. Et donc le contexte à ce moment-là, c'est toute l'histoire de la philosophie, et on dit la théorie parménidienne, on estime qu'elle est erronée par rapport à d'autres théories qui ont été proposées par la philosophie. Donc la phrase-là crée un tout autre contexte, et on a juste changé un nom propre. Donc c'est vrai que la phrase crée son contexte. Alors tout ça pour dire encore une fois que, bien sûr, le contexte indique quelque chose, mais à nouveau d'une manière insuffisamment déterminée, d'une manière toujours plus déterminable. Alors, nous avons vu que donc le social historique, je passe à un chapitre un peu différent, nous avons vu que le social historique était à penser sur le même modèle. Donc, le socialiste, une société, si on veut essayer de la déterminer, de définir ce qui la caractérise par rapport à toutes les autres sociétés, on aura là aussi une définition infinie, donc impossible. On ne pourra jamais dire où sont les limites précises d'une société. Qu'est-ce qu'il faudrait changer pour qu'elle devienne tout à fait autre qu'elle n'est ? Qu'est-ce qui lui est essentiel et qu'est-ce qui lui est secondaire ou accidentel ? Quelle est la transformation profonde d'une société ? Qu'est-ce qui la distingue vraiment essentiellement des autres ? Bon, c'est impossible d'en donner des limites précises, ce qui n'empêche pas qu'on peut essayer de le déterminer et sans cesse déterminer mieux, si on veut, mais il n'y a pas de limite précise à ça. De la même manière, dans son côté diachronique, donc dans son histoire, dans son évolution, on ne peut pas poser des limites précises à ces transformations. On ne peut pas dire précisément à partir de quel moment la Rome, par exemple, la Rome républicaine est devenue Rome impériale. Oui, il y a un moment historique, le couronnement de l'empereur, mais la Rome républicaine et la Rome impériale, c'est plus que ça, c'est plus que le fait qu'il y a un empereur ou un triumvirat à sa tête. C'est toute la différence, elle est culturelle, c'est une toute autre Rome. Le changement de régime entraîne des changements sociaux, culturels, tout est bouleversé. Et, or, ces changements sociaux et culturels avaient déjà commencé avant. Si on est passé à l'Empire, c'est parce qu'il y avait déjà eu des changements culturels qui ont poussé certains à installer un pouvoir impérial. Donc, où est exactement la limite entre ces deux moments de l'histoire de Rome? On ne sait pas. Ou si vous pensez à la limite entre le Moyen-Âge et la Renaissance, bon, les historiens, là, encore une fois, bah, par convention, ils fixent une limite à un certain événement, encore une fois, plutôt un événement politique qui a redessiné le contour des États de l'époque. Mais si vous prenez, par exemple, l'évolution culturelle, elle avait commencé bien avant. Ou si vous prenez l'évolution sociale, elle avait commencé bien avant, avec la constitution des villes, par exemple. Donc, il n'y a pas de limite précise qui dise « ici, on n'est plus au Moyen-Âge, on est à la Renaissance ». Tout dépend de quel aspect on prend en compte. Et donc, c'est, encore une fois, indéfiniment définissable. On a encore là de l'indéfiniment définissable. Et en fait, cette indétermination, qui en même temps est toujours déterminable, est un avantage pour nous. C'est un avantage pour l'action parce que ça nous dit à quel point le monde et la société sont à la fois résistants et malléables. Ils sont résistants parce qu'on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire avec le monde. Il nous résiste, je veux dire, comme on l'a vu, c'est le monde phénoménal, il est déjà déterminé d'une certaine manière. On peut en faire l'expérience facilement si on essaye de voler ou de se jeter dans un précipice. Bon, on sait ce qui va arriver et ça va arriver. Donc il est résistant. Mais en même temps, il est malléable. Et même chose pour la société, elle est résistante. C'est-à-dire, il y a des déterminations qui sont tellement bien fixées, tellement bien ancrées, qui nous ont tellement bien formées, qu'on ne peut pas les détruire. Mais elle est aussi malléable. Et il faut, bon, voilà, y a moyen d'agir justement en faisant la part de ce qui est transformable et de ce qui ne l'est pas. Donc ce qu'on va favoriser parmi toutes les réalisations possibles, parmi toute cette virtualité, toute cette potentialité, ce qu'on va favoriser dépendra toujours d'autres significations qu'on a, et en particulier des finalités sociales. Finalité des individus ou de la société dans son ensemble ou d'une partie de la société, etc. Or, il se fait que ces finalités, elles ne sont pas les mêmes pour toutes les sociétés, mais le problème, c'est qu'elles ne sont pas toujours les mêmes non plus au sein d'une société. Et là, on est obligé de penser quand même l'antagonisme social. Bon, d'abord, à propos de ce qui est significatif, ce qui est significatif par rapport à la malléabilité du monde pour une société, on peut dire que, je prends une citation là, que la fusion de l'hydrogène, pour faire fusion nucléaire, soit possible et très difficile à réaliser, a un sens pour la société contemporaine et pour aucune autre. Pour toute autre société, c'est tout aussi vrai que l'hydrogène est à la fois fusionnable mais difficilement, c'est tout aussi vrai, mais ça leur est complètement égal, parce qu'ils n'ont pas cette intention d'en faire quelque chose. Et à l'inverse, donc, que tel bois soit excellent pour fabriquer des arcs n'a presque aucun sens pour cette même société, après avoir été d'une importance capitale pour la vie des hommes pendant des millénaires. Donc pour nous, par contre, que le bois des arbres soit résistant ou malléable pour nous dans une certaine mesure, nous est complètement indifférent parce qu'on ne fait plus rien avec. Donc tout dépend effectivement des finalités. Et c'est pour ça que la technique instrumentale, la technique fonctionnelle, ne doit pas être considérée comme un instrument neutre. Elle ne doit pas être considérée comme quelque chose qu'on peut mettre au service de n'importe quelle finalité. En fait, la technique, elle est déjà prédéterminée par les finalités avant même d'exister. Je veux dire que les finalités d'une société déterminent quel type de technique on va développer, déterminent quel type de choses on va chercher, quel type de choses on va essayer d'améliorer et quel type de choses nous sont indifférents. Donc la technique, elle ne naît pas n'importe comment. Elle ne naît pas par elle-même, elle ne se développe pas par elle-même, elle se développe parce qu'il y a une volonté de la développer. Et donc cette volonté, c'est déjà une orientation de la technique vers quelque chose. Et donc c'est pas vrai que la technique est un instrument neutre, parce qu'elle n'a été faite pour quelque chose. Et une fois qu'elle aura été installée, eh bien, elle sera découverte, mise au point, il sera très difficile de ne pas l'utiliser, justement. C'est pourquoi le discours qui justifie les recherches en disant ben, « on n'est pas obligé de l'utiliser », on va faire des bombes, on n'est pas obligé de les utiliser, c'est un discours faux. c'est un discours trompeur, parce que si on les a faites, c'est pour les utiliser, il n'y a pas de doute. Bon, donc, ça, c'est important aussi donc, de penser que toute malléabilité, finalement, sera utilisée en fonction de nos fins. Alors, que se passe-t-il quand il y a des fins antagonistes? Un exemple, en ce moment, toute l'Amérique latine est déchirée par des conflits à propos de l'exploitation minière. Il y a de plus en plus d'exploitations minières, autorisées par les gouvernements, mais contestées par les populations. Exploitation d'or, d'argent, de cuivre, de toutes sortes de choses. Le conflit, en fait, ne porte pas sur une compétition dans un cadre institué qui est le cadre du profit. Le conflit ne porte pas sur qui va gagner, qui va gagner le plus d'argent de ses ressources, de l'exploitation de ses ressources. Ce n'est pas là-dessus qu'ils discutent. Le conflit est beaucoup plus profond, parce qu'il porte sur la représentation même de ce qu'est la nature pour les populations. Hein, les populations qui contestent l'exploitation minière, ce n'est pas parce que ça ne va pas leur rapporter assez d'argent. Ce n'est pas du tout pour ça. C'est parce qu'eux ont un autre rapport à la nature. La nature signifie autre chose pour eux qu'un réservoir exploitable. Et donc, ils veulent l'utiliser à autre chose. Et c'est vrai que si plusieurs personnes contemplent une colline, pour les uns, ce qu'ils vont y voir, c'est des dollars, hein, ce que je vais y trouver dans son sous-sol. D'autres vont y voir un champ de maïs, hein, c'est par exemple les populations amérindiennes. D'autres vont y voir un superbe sujet pour peindre un tableau. D'autres vont y voir un champ de jeu ou d'exploration. Donc, en fait, la représentation même qu'on a de la nature crée des antagonismes. On a des représentations antagoniques. Et donc, ça veut dire que c'est des représentations qui contestent le cadre institué. Hein. Ça conteste vraiment un cadre où la nature est censée être uniquement un réservoir d'exploitation. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Le seul lieu où on peut confronter des représentations antagonistes, c'est le lieu du politique. Or, quand ce lieu du politique n'existe pas, ou est confisqué dans une certaine institution extrêmement fermée, quand ce lieu du politique n'existe pas, quand il n'y a pas de discussion possible de ces choses en commun, alors la société reste profondément déchirée, hein, profondément divisée dans ses représentations mêmes, et c'est le cas de notre société actuelle. Et c'est pourquoi c'est assez curieux que Castoriadis affronte assez peu, il parle vraiment curieusement très peu de l'antagonisme des représentations elles-mêmes dans une société, de ses finalités opposées dans une même société. Il a plutôt tendance à présenter sa théorie comme le fait que l'imaginaire social est comme une pièce de théâtre, hein, la comparaison est de lui, est comme une pièce de théâtre dans laquelle chacun doit trouver son rôle, et donc où l'institution elle-même fait en sorte de susciter la formation de tous ces rôles chez les individus. Donc c'est évidemment l'emprise de l'imaginaire social sur l'individu qu'il met en avant par cette théorie, hein, en disant l'imaginaire social c'est vraiment la condition pour que chacun trouve un rôle, pour que un rôle adapté à l'ensemble de la société. Il faut qu'il ait le bon rôle dans la bonne pièce. Il ne faut pas qu'il vienne avec un rôle d'une autre pièce dans cette pièce-là, parce que qu'est-ce qui va se passer là? Il sera névrosé, ce sera un névrosé, un inadapté social complet. Hein, celui qui croit qu'il est dans une autre pièce, bon. Et donc, du fait que Castoriadis insiste tellement sur l'importance pour les individus de ce que leur apporte l'imaginaire social, sur leur formation par l'imaginaire social, du fait qu'il oublie ça, enfin qu'il veut insister particulièrement là-dessus, il oublie qu'en fait, bien souvent, les individus ne trouvent pas un rôle, n'acceptent pas les rôles qui leur sont proposés par l'imaginaire tel qu'il est. Hein, et voudraient en créer d'autres, et donc s'opposent à tous les rôles qu'on pourrait leur proposer, ne s'identifient à aucun. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas, que curieusement, on ne trouve pas beaucoup dans Castoriadis. Je le signale juste comme ça. Pourtant, quand il signale par ailleurs que dès qu'il y a domination de classe, il y a aussi lutte des classes pour la libération, hein, quand il dit ça, il insiste bien sur le fait qu'il y a bien de la créativité de la part d'une partie de la société contre une autre. Hein, il y a bien quelque chose qui surgit de cette partie comme quelque chose de nouveau, qui ne lui a pas été donné par l'imaginaire social existant, puisque c'est une opposition à cet imaginaire existant. Donc il théorise aussi cette partie-là. Et c'est dommage, donc, par conséquent, je trouve qu'il n'ait pas fait le lien entre ces deux aspects de sa théorie, de manière plus explicite, hein, en disant mais comment ça se passe quand on a des représentations antagonistes dans une société? Comment on la résout? Alors, je pense que, et bien ça on verra la semaine prochaine, que finalement les choses se résolvent dans sa théorie du politique. Hein, que c'est vraiment là, dans son exigence justement qu'une société autonome soit une société démocratique. C'est là qu'on va trouver évidemment la solution. Un antagonisme doit se placer sur cette place-là. Et donc je vais simplement terminer aujourd'hui sur une conséquence encore de la pensée de ce potentiel qui est à la fois déterminé et indéterminé. Une conséquence de ça, c'est que donc, l'ensemble des phénomènes est à la fois donc, un mélange de péras et d'apeiron, hein, de limites et d'illimités. Et par conséquent, donc, que ce soit à propos du monde ou du social historique ou de l'inconscient, on sait qu'il y a à la fois des contraintes, c'est-à-dire des choses qui sont intangibles, inchangeables, qui ne sont pas, ou du moins que, enfin, qui nous résistent, et toute une partie de choses, au contraire, qui sont des potentiels ouverts. Et alors, cette notion de potentiel, il faut bien la saisir finement, parce que c'est une notion plurivoque, la potentialité. On peut concevoir un potentiel qui n'a qu'une seule actualisation possible. Donc, il est puissance de devenir une chose. Hein, il y a une possibilité là que quelque chose devienne une chose précise et pas une autre. Donc, un potentiel qui n'a qu'une seule réalisation possible. Par exemple, un gland, le fruit du chêne, bah, il a la potentialité de devenir un arbre, mais un seul arbre, toujours un chêne. Il n'a pas la potentialité de devenir un autre arbre. Donc, c'est bien une potentialité d'arbre, hein, c'est une puissance d'arbre, le gland, mais d'un seul arbre. Il peut se réaliser que d'une seule façon. Donc ça, ce serait un potentiel unique. Et quand on pense potentiel, il faut savoir que tous les potentiels ne sont pas de ce type-là. Toute puissance n'est pas déterminée. Hein. Toute puissance n'est pas déterminée, n'est pas destinée à être une chose précise. Elle n'est pas toujours puissance de ceci. Il y a aussi une puissance de multiples choses. Alors, à l'inverse, on pourrait concevoir une puissance qui soit puissance de tout. Donc un potentiel totalement ouvert. Une matière qui puisse devenir n'importe quoi. On peut par exemple imaginer qu'il y a eu un moment de l'univers où la matière était potentiellement n'importe quelle détermination. C'est pas sûr. Hein. C'est une chose qu'on peut imaginer, concevoir, mais on n'en est pas du tout sûr. Bon, un potentiel absolument indéterminé et aussi ouvert, en tout cas on n'en fait jamais l'expérience dans le monde commun. Dans le monde des phénomènes, on n'en fait jamais l'expérience. Hein. Il n'y a rien qui soit totalement indéterminé, dont on puisse faire n'importe quoi. Donc la plupart des choses se situent en fait entre ces deux extrêmes. Ni potentialité d'une seule réalisation, ni potentialité de n'importe laquelle. La plupart des choses se situent entre les deux. Potentialité de multiples réalisations entre lesquelles il faut choisir. Et la dernière conséquence que je voulais souligner à propos de ça, c'est quand on nous dit... Quand on nous objecte qu'une société radicalement démocratique ou même libertaire n'est pas possible parce que la nature humaine est telle que nécessairement il y aura tout le temps des gens qui voudront s'accaparer plus ou qui voudront dominer les autres. Et donc voilà, c'est impossible en raison de la nature humaine. Et cette notion de nature humaine, il faut bien la comprendre justement à l'aide de la notion de potentiel. Quel type de potentiel c'est un humain ? Est-ce que c'est une potentialité de réaliser une seule chose ou est-ce que c'est une potentialité de réaliser de multiples choses? Et si on choisit de multiples choses, est-ce que c'est une potentialité de réaliser seulement un nombre de choses déterminées déjà d'avance pour lui, hein, cette idée de rôles sociaux à endosser, ou est-ce que c'est une potentialité qui est en partie indéterminée, en partie ouverte vraiment à du nouveau? Dans tous les cas, il ne sert à rien de répondre à l'objection il n'y a pas de nature humaine. On entend parfois cette réponse hein, qui est en fait inspirée des théories anti-essentialistes, hein, théories anti-essentialistes qui disent il n'y a pas d'essence, hein, il n'y a rien de fixe, il n'y a pas d'essence de l'homme, donc il n'y a pas de nature humaine. Mais la nature humaine, ça ne veut pas dire une essence au sens de justement une définition complète, totalement fixe, permanente, etc. Ça ne veut pas dire ça. Quand on dit nature humaine, ça veut dire l'ensemble de potentiels qui appartiennent à cette espèce, hein, qui la distingue d'autres espèces qui ont d'autres potentiels et pas ceux-là, et l'ensemble de potentiels qu'elle peut ou pas réaliser. ou qu'elle peut réaliser d'une manière et pas d'une autre, et de manière différente selon les cultures. C'est ça la nature humaine. S'il n'y avait pas du tout de nature humaine, qu'est-ce qu'il y aurait ? Bah, l'homme, ça serait un indéterminé total. Tout lui serait possible, rien ne lui serait a priori impossible, il n'aurait aucune contrainte, aucune détermination biologique, physiologique. Voilà, à partir du moment où on dit, mais non, il y a des contraintes, il y a des choses qui sont fermées pour l'homme, il ne fera jamais respirer sous l'eau, etc. Ou alors il mutera vers une autre espèce. Mais ça, il ne fera jamais en tant qu'homme, donc il y a une certaine nature humaine. Mais si on garde à l'esprit que cette nature humaine, c'est un potentiel qui n'est pas à réalisation unique et est complètement déterminé dès le départ, voilà, tout est à nouveau possible, non ? Et voilà donc comment cette notion de potentiel et de mélange d'indéterminé et de détermination peut être utile. Hein, cette conceptualisation un peu ardue peut-être peut être quand même utile pour penser la transformation. Merci pour votre attention, c'était dur.
La potentialité, ça dépend peut-être un peu de la notion du un, parce que du un, ce qu'on appelle le. Moi, ce qui me fait rebondir, c'est l'idée du gland de chêne, et il ne peut donner qu'un chêne. Mais en réalité, ce chêne, il a des tas de potentialités différentes.
Alors, le spécialiste du gène, il est à côté de toi. Moi, je n'ai pas.
Le chêne.
Ah, le chêne, voilà. Le chêne peut donner. Voilà. Oui.
Ce gland-là, effectivement, il ne peut pas devenir un cochon, il ne peut pas devenir une poule, il ne peut pas devenir un platane. Mais le chêne qui devient, il a une infinité de potentialités. Et il n'y en a qu'une qui se réalise, mais il y en a une.
Voilà, au sens de l'individu.
C'est l'idée de un, c'est l'idée voilà. de un qui enferme quelque chose.
Tout à fait. Est-ce qu'on considère que, voilà, si en tant qu'espèce, il est limité à une. Il a une unité d'espèce. Mais en tant qu'individu, il est infiniment différencié de tous les autres individus chênes. Il n'y en a pas un exactement identique à l'autre. Et donc, voilà, effectivement. Donc, qu'est-ce... Tout à fait. Oui.
À propos de Kant et de l'entendement, donc, l'argument a l'air assez solide quand on dit que les catégories de l'entendement doivent préexister à l'expérience parce que l'expérience serait impossible sans elle. Et puis alors, on est surpris de voir que finalement le monde, les choses, l'univers, se prête assez bien, se plie assez bien, s'apprivoise assez bien par ces catégories. Mais ça, c'est une vision vraiment ontologique limitée à l'individu, c'est-à-dire on a besoin de ces catégories pour comprendre le monde et ça tombe bien justement, le monde se prête à nos catégories. Mais si on regarde d'un point de vue phylogénique, en fait, une espèce animale qui n'aurait pas les catégories qui lui permettent de comprendre son monde, elle ne survivrait pas une génération. Et par contre, les catégories que nous avons, toutes ces catégories, elles résultent de 3 milliards d'années d'évolution, justement. Et donc, je pense que ça résout peut-être en partie ce problème-là, dès le moment où on met une perspective évolutive là-dessus, c'est que ce n'est pas par hasard, c'est pas le monde qui se plie à nos catégories, c'est au contraire ces catégories, même si elles sont innées, qui en fait ne sont pas apparues le jour de notre naissance. En fait, ces catégories se sont adaptées au monde et à l'univers, et sans doute à ses propriétés impalpables, ses propriétés intrinsèques à l'univers en soi.
Oui, en fait, alors c'est tout à fait clair pour tout ce qui est nos dispositions vitales et tout ce qui est nécessaire, je pense que j'avais fait allusion à ça dans des séances précédentes, tout ce qui est nécessaire au vivant en tant qu'organisme pour sa survie, c'est-à-dire le fait de reconnaître effectivement des identités et des permanences, de reconnaître ce qui est une proie, un prédateur, le fait que tout le vivant et pas seulement l'être humain utilise d'une certaine manière la logique identitaire et ensembliste, c'est absolument nécessaire. Ça c'est vrai. Mais Kant, en plus, quand il parle de catégorie de l'entendement, il veut aussi rendre compte de la connaissance scientifique. Et ça, je ne sais pas si on peut dire que la connaissance scientifique est indispensable pour la survie de l'être humain. Par exemple, la catégorie de causalité, je pense qu'elle n'est pas indispensable pour la survie. Il suffit de l'habitude. Il suffit de l'habitude, l'habitude d'associer un événement à un autre pour pouvoir survivre, c'est-à-dire réagir correctement, se protéger ou faire l'action adéquate pour la survie. Ça suffit sans conceptualiser ceci est l'effet de telle cause. c'est pas nécessaire. Donc je crois que la connaissance scientifique, elle vient en plus de... Et quand tu sais que dans les catégories, il y a aussi la distinction entre potentialité, nécessité ou simple existence d'un phénomène. Est-ce qu'un phénomène est seulement possible? Est-ce qu'il est simplement existant ou est-ce qu'il est nécessaire? Bon, ça aussi, c'est des catégories qui n'ont de sens que pour la connaissance, au sens vraiment scientifique du terme. Pour la simple survie de l'animal, qu'un phénomène soit nécessaire ou pas, ça lui est un peu indifférent. L'important, c'est juste l'habitude. C'est vraiment la théorie de Hume suffit. Quoi,
Mais même l'espace et le temps, on pourrait se dire que, comme j'ai compris ce que tu as dit, qu'en fait l'espace et le temps, ce sont des impératifs de l'entendement de l'humain qui lui permettent de percevoir
pas
le monde.
Comme si... Ce sont des formes a priori de la sensibilité.
La sensibilité.
Formes de la sensibilité. Donc ça passe pas par l'entendement. C'est pas quelque chose qu'on comprend ou qu'on réfléchit, qu'on intellige. C'est les conditions de possibilité de la sensibilité.
Oui, mais toutes les espèces animales ont une perception de l'espace et du temps. Enfin, ou même peut-être les bactéries ont aussi une perception de l'espace et du temps.
Absolument. Et c'est indispensable à leur survie, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc c'est vrai que ça a été probablement sélectionné, sinon elle n'aurait pas survécu. Si elle n'avait pas eu ça, elle n'aurait pas survécu. Alors, Kant, justement, lui-même... Castoriadis se moque un petit peu de lui parce qu'il disait que cette correspondance entre nos catégories, hein, aussi bien de la sensibilité que de l'entendement, et les phénomènes, il dit que cette correspondance est due à un heureux hasard. Un heureux hasard, et Castoriadis ricane un peu et dit ce heureux hasard, il s'appelle Dieu. Quoi, hein. Derrière le système de Kant, il y a quand même un garant suprême. Mais il ne le dit pas. Il ne le dit pas, on est... S'il était Descartes, il le dirait, mais il vient 150 ans plus tard, il ne le dit pas. Un heureux hasard, je pense que voilà, c'est ce qui lui manquait, c'est qu'on lui dise le hasard, il est un petit peu dirigé par la sélection. Voilà. C'est ce qui lui manquait. Mais il est obligé de reconnaître qu'il y a une correspondance. Quoi. Ouais. Et c'est intéressant parce que par rapport au scepticisme qui pourrait dire non, le monde n'est qu'un chaos, hein, un chaos au sens de, il n'y a aucune régularité, aucun ordre, tout suit n'importe quoi, tout est en rapport avec n'importe quoi, n'importe quelle relation peut s'établir entre n'importe quel terme, etc. C'est ça un chaos, quoi. Et cette hypothèse-là, elle est extrêmement peu probable, justement, parce que sinon, on n'arriverait pas à l'organiser. On ne l'organiserait pas s'il était un chaos en lui-même. Parce que simplement, on n'aurait tout simplement pas deux fois la même observation qui nous arriverait, quoi. Or, c'est le cas. On voit bien que c'est le cas. Ouais. Quelle que soit l'interprétation, après, c'est ça qui diffère. C'est l'interprétation qu'on donne à ces régularités. Est-ce qu'on l'interprète comme une habitude? Mais c'est difficile à dire. Je veux dire, on n'a pas simplement l'habitude de voir le sol mouillé qui suit la pluie, quoi. C'est pas seulement une habitude. De fait, c'est toujours comme ça. Donc, c'est une observation. C'est donné, quoi. C'est du donné déjà. Voilà, donc oui,
Hume dit que c'est pas une vérité scientifique.
Absolument.
C'est un constat. Que demain le soleil se lève, c'est un simple constat.
Absolument. C'est par habitude qu'on dit que demain il se lèvera, mais on n'a aucune certitude à le dire. Bon, le même scepticisme, c'est... comment dire, c'est une attitude... assez, comment dire, mais oui, assez facile d'une certaine manière, parce que il y a tellement de choses pour lesquelles on n'a pas de certitude que abandonner la recherche en disant voilà, il n'y a rien, ou voilà, on ne sait rien, on ne peut rien savoir, c'est un peu l'attitude facile. Je pense que l'attitude de Kant est plus courageuse, quoi, de se dire je vais voir jusqu'à quel point on peut dire quelque chose qui soit un minimum sûr, quoi. Essayer de trouver des garanties, etc. Ben, c'est ça la construction philosophique, quoi, parce que sinon, dire on ne peut rien savoir. Moi, je trouve qu'à force de chercher, on se convainc quand même qu'il y a de grandes probabilités que les choses soient plutôt comme ça qu'autrement. Ça vaut la peine, quoi.
Mais le système de la perception, il est par exemple remis en cause considérablement avec la théorie des Cantal, vraiment pas un spécialiste, hein. Mais quand on nous dit qu'une particule, elle peut être ici et là en même temps, c'est absolument incompréhensible. qu'elle peut avoir une qualité et une autre qualité en même temps contradictoire avec la première. Ça échappe. Alors, c'est vrai qu'on change d'échelle, on est à l'échelle de l'inframicroscopique. Bon.
Mais.
C'est encore une autre question que ce que j'avais dit, effectivement, qu'il y a une antinomie entre le fait que les quantas, ils ont des propriétés de corps et des propriétés de onde, mais en plus, c'est vrai qu'il y aurait une sorte d'ubiquité, mais on n'est pas du tout sûr de ça, parce que le problème, c'est que l'observation interfère avec le mouvement du quanta, donc comme on interfère avec son mouvement, ben, on ne peut pas le déterminer. Mais ça, c'est justement, ça fait partie du champ du déterminable, c'est-à-dire qu'un jour, on va dépasser cette ignorance, très probablement. Hein, il y a quelque chose là de, en principe, connaissable, mais on est bloqué pour le moment, quoi. Enfin, je pense. Hein. Mais effectivement, alors, par rapport à ce que tu dis, ben, j'en viens du coup au principe de non-contradiction, ce qui nous heurte le plus, c'est justement ce qui heurte le principe de non-contradiction. Hein, c'est de pouvoir dire une chose est et n'est pas en même temps et sous le même rapport, bien sûr, sous le même aspect ou relativement à la même personne, relativement à la même chose. Hein. Il faut ajouter toutes les circonstances, évidemment, sinon c'est trivial. Hein, sinon c'est trivial de dire que cette table est à la fois grise et noire, bon, évidemment, mais pas dans ces mêmes parties. Bon. Mais donc, pourquoi est-ce que c'est tellement difficile à mettre en question ce principe de non-contradiction? Parce que, donc, à la fois, si on dit que c'est au niveau du langage qu'on peut se permettre de dire qu'une chose est et n'est pas, ou a une caractéristique et ne l'a pas, en même temps et sous le même rapport, si c'est au niveau du langage, alors ça veut dire qu'on ruine justement tout l'aspect communicationnel du langage, enfin toute l'utilité communicationnelle du langage, puisqu'on ne sait jamais dans quel sens on utilise le terme. Si on dit que tu es un homme et tu es un non-homme en même temps, bah, ça veut dire qu'en fait, on ne donne pas le même sens à homme et à non-homme, enfin à homme dans les deux expressions. Ou si on dit que tu es et que tu n'es pas, bah, ça veut dire qu'on ne donne pas le même sens au verbe être. Donc là, il y a un problème de langage. Quoi. Il faut s'entendre au moins sur les mots si on veut voilà, communiquer et penser. Mais si on le met au niveau non plus du langage, mais au niveau ontologique, et si on dit que vraiment, des phénomènes peuvent vraiment être et ne pas être en même temps, et donc dans le cas des quantas, il peut se trouver vraiment à cet endroit et ne pas s'y trouver en même temps, alors ça met en question quelque chose d'extrêmement profond chez nous, parce que ça veut dire qu'on a de l'indéterminé qui n'est pas déterminable. Alors qu'on a toujours tendance à avoir affaire à de l'indéterminé déterminable. Moyennant plus de recherche ou plus de, peu importe, une autre considération, un autre instrument, mais l'indéterminé est normalement déterminable. Et là, non. Il serait indéterminé profondément en soi. Enfin, en soi, pour nous. Mais c'est de toute façon pas en soi, ce serait de toute façon pour nous. Mais là, il y aurait quelque chose, effectivement, qui remet en question nos catégories radicalement. Et c'est pour ça que, avant de l'accepter, on réfléchit beaucoup. En même temps, bon, on peut dire que ça enrichit nos catégories. Je veux dire, le fait qu'on doive ajouter, par exemple, un type d'étang qui est intermédiaire entre corps et onde, ben, on peut dire que c'est formidable. On a découvert un nouveau domaine de l'être, non ? Où, si on est obligé d'admettre que le don d'ubiquité appartient effectivement à certaines choses, ben, on peut dire, waouh, ça enrichit le champ des phénomènes. On pourrait le prendre comme ça. Bon, en attendant, on n'est pas sûr. Parce qu'il y a une question de probabilité aussi, enfin...
Oui, il y a quelques années, avec des amis libre-penseurs, on avait fait un texte où on parlait du connu, de l'inconnu, et on avait ajouté l'inconnaissable. Qu'est-ce que tu en penses?
Tu es obligé de mettre là l'inconnaissable, parce que, ben, par exemple, la distinction phénomène-chose en soi fait de la chose en soi l'inconnaissable pour nous. Inconnaissable pour nous, par définition. C'est ce à quoi on n'aura jamais accès. Alors, on ne sait pas si finalement ce n'est rien. Tu vois, c'est ça qui est marrant, c'est qu'on ne sait pas si peut-être cette chose en soi, ce n'est rien, parce que tout est donné dans le phénomène. C'est possible que la chose n'ait rien de plus en elle-même que ce que nous en pouvons en connaître. C'est possible. Il n'empêche que ça, on ne le saura jamais. Donc, c'est de l'inconnaissable quand même. Et donc, ouais, je pense qu'on doit poser qu'il y a de l'inconnaissable. par définition. Mais on a l'impression que tout le connaissable, justement, il va un jour être connu. Quoi. C'est cette idée que connaissable, ça veut dire qu'il va être connu, ou qu'il va se réaliser d'une manière ou d'une autre pour nous.
Mais c'est une limite mobile, en fait, ça je ne suis pas très sûr d'avoir compris, parce que tu dis, la chose en soi, c'est ce qui ne sera jamais connu, mais c'est aussi ce qui aujourd'hui n'est pas connu et qui peut-être demain ne deviendra.
Non, ça c'est toujours du phénomène.
Mais si on ne le perçoit pas aujourd'hui,
c'est du phénomène.
On acquiert des nouveaux sens.
C'est quand même du phénomène, parce que ce que la chose est en soi, c'est justement ce qu'elle n'est pas pour quelqu'un d'autre.
Mais aujourd'hui, une chose pourrait être quelque chose qu'elle n'est pour personne, parce que aucun animal ou aucun être vivant n'a développé la capacité à percevoir cette propriété de la chose, mais peut-être que dans 100 milliards d'années, il existera des êtres vivants qui perçoivent quelque chose qui n'est ni la couleur, ni l'odeur, ni tout ce que nous percevons aujourd'hui. Dès lors, cette chose qui un jour sera perceptible, est-ce qu'aujourd'hui c'est de l'en soi et demain ce sera du phénomène ?
Non, hein, je crois qu'on est obligé de dire non, parce que même les nouveaux, même les phénomènes qui passent de l'inconnu au connu, ils sont toujours pour quelqu'un. Et le connaissable non encore connu, il est quand même connaissable pour quelqu'un. Il reste connaissable pour quelqu'un. Donc s'il y a des choses qui peuvent être découvertes par nous ou par d'autres êtres, et donc qui sont virtuellement, simplement virtuellement déterminables, elles sont déjà du phénomène parce qu'elles sont déjà pour quelqu'un. Elles sont virtuellement connaissables par quelqu'un de précis. Elles ne sont toujours pas ce qu'est la chose en soi, ce qu'elle est pour elle-même. Ce qu'elle est pour elle-même reste fixe. La chose, elle est pour elle-même quelque chose, on ne sait pas quoi. Et quelles que soient les connaissances que n'importe qui pourra en avoir par ailleurs, ça ne modifie pas ce qu'est la chose en soi. Ça n'augmente pas ni ne diminue la quantité de détermination qui sont seulement en soi.
Le phénomène ne peut pas épuiser la chose en soi.
Non.
C'est ça l'idée.
Non. Mais pas non plus, c'est pas non plus comme si tu avais un ensemble dont l'un se rétrécit au fur et à mesure que l'autre avance. Non. Mm-hmm. Il n'y en a pas un qui se rétrécit, quoi. La chose en soi, elle ne se rétrécit pas. Parce que tout ce qu'on augmente, on peut augmenter. Enfin, le phénomène, c'est pas qu'on augmente, c'est qu'on fait passer de plus en plus de phénomènes du simplement déterminable au déterminé. C'est tout. Ils passent du déterminable au déterminé, mais c'est toujours des phénomènes. Et c'était déjà. Quand ils étaient juste déterminables, c'était déjà du phénomène. C'est déjà le monde des phénomènes. Le monde des phénomènes, c'est pas le monde du connu. C'est le monde du connaissable. Pour nous ou pour d'autres. S'il y a d'autres. Non, la chose en soi, par définition, c'est ce qui n'est pour personne. C'est ce que la chose est en elle-même, et non pas telle qu'elle apparaît à quelqu'un d'autre, qui que ce soit. Donc tout ce qui est une apparence appréhendable, saisissable, un jour, par un être quelconque, est du phénomène.
Est-ce que l'impossibilité de à la chose en soi, elle n'est pas simplement liée au fait que la sensibilité est un filtre, un voile, la vision immédiate de l'impersonnel. Parce que quand on dit si quelqu'un pouvait imputer son nom sans sensibilité, il y avait la sensibilité.
Non. Non, parce qu'il l'intuitionnerait par une autre faculté, par exemple par l'entendement pur ou par une autre faculté même que nous ne connaissons pas mais qui peut éventuellement exister chez d'autres êtres. Donc il l'appréhendrait par quelque chose. Et donc, elle se donnerait à ces catégories. Elle serait à nouveau filtrée par ces catégories. Elle serait pour lui. Elle serait ce qu'elle apparaît à lui, étant donné ses facultés propres. Mais elle ne serait toujours pas telle qu'elle est en elle-même, indépendamment de ce qu'elle apparaît à quelqu'un. Et en fait, on pourrait penser presque que cette distinction n'a pas beaucoup d'intérêt, puisque bon, la chose en soi, dès qu'on l'a comprise, ben, on la laisse de côté. On ne peut plus rien en dire de plus. Mais ce n'est pas une distinction sans intérêt, parce que ça fait la part entre le relatif et l'absolu. Ça, c'est très important, quoi. La chose en soi, c'est ce qui n'est pas relatif. elle n'est pas relative à quelque chose d'autre. Et donc, ce que Kant veut dire là, c'est que tous les phénomènes sont relatifs. Ils sont toujours relatifs à quelqu'un. Ça, c'est tout de même une position forte, quoi, hein, de dire que tous les phénomènes, donc tout ce qui est connaissable virtuellement, est relatif à quelqu'un qui le connaîtra. Tout ça, c'est relatif parce que c'est ce que c'est relativement à lui, hein, ce que c'est par rapport à ses facultés à celui-là, peu importe quelles sont ses facultés. Et la chose en soi, ben, par opposition, c'est ce qui est non relatif, hein, c'est ce qui serait le non relatif. Et Kant dit, ben, le non relatif, il n'y a même pas la peine d'y penser, on ne peut pas le saisir. Tout est relatif. Ben, Kant, il a dit avant Einstein, tout est relatif. C'est impressionnant quand même, comme thèse. Tout est relatif à quelqu'un, tout le phénomène est relatif à quelqu'un qui l'appréhende. Y compris nous-mêmes, hein, nous sommes des phénomènes pour nous-mêmes.
Pour les définitions aussi, l'évolution du langage, si le moindre poème annihile l'effort de tous les dictionnaires, alors est-ce que ça a un sens de définir, d'écrire des dictionnaires, d'avoir des académies?
Il l'annihile pas, justement. Il l'annihile pas. Il l'enrichit, hein, et il l'enrichit d'une nouvelle signification, et il l'annihile pas, et il n'annihile pas non plus cette tentative de codifier le langage qui est indispensable, encore une fois, parce que sinon, il n'est pas possible de l'utiliser s'il n'y a pas quand même une certaine fixation des significations et des usages, même si elle est modifiable. Si les mots, si on augmentait considérablement la vitesse de modification des significations des mots, on serait perdu, on n'arriverait plus à communiquer, on saurait pas, on n'aurait pas le temps d'intégrer ces modifications. Là, ça se fait sur un temps qui est intégrable, quoi. On a le temps de les intégrer. C'est vrai qu'on pourrait imaginer une vitesse tellement rapide de modification que du jour au lendemain, on ne sait plus ce que signifie un mot, quoi. Ben, ce serait la ruine de la communication. Donc le dictionnaire a un sens, parce que régulièrement, il met à jour l'évolution.
Mais en même temps, toute la poésie repose sur l'équivocité des mots.
Bien sûr.
Mais, toute la poésie, pas toute la poésie, mais toute une partie de la poésie repose là-dessus.
Absolument. Et les jeux de mots, pareil. Ouais, et les, un grand plaisir de la langue, c'est en fait. Presque le principal plaisir de la langue, c'est l'équivocité des mots. Donc, il ne faut pas la perdre non plus. Et c'est ça qui est bien dans cette théorie, c'est que c'est vraiment une théorie de maintenir les deux aspects, ne pas privilégier un aspect par rapport à l'autre. Les deux sont absolument indispensables. Et concilier les deux aspects est absolument indispensable. Chacun a une fonction totalement différente, mais complémentaire.
Mais en même temps, voici un livre en montagne dans le texte. Ça peut savoir combien on peut arriver à faire des contresens sur une phrase, uniquement parce que le mot il a glissé depuis, oui. Et la façon dont on le perçoit.
Et donc on va alors retourner.
Quand tu te reportes à la note, on se dit ça veut dire ça. Bon.
Et donc on va retourner à un dictionnaire de l'époque.
Voilà, enfin, et à ce moment-là.
Ou en tout cas plus proche. Oui. Pour
ou à l'étymologie, ouais. Ou à des trucs comme ça, parce qu'il y a des astuces pour retrouver le cœur du mot. Hein.
Voilà. Et donc ça, c'est toute la question de la transmission culturelle, quoi. Hein. C'est ça qui est extraordinaire dans la transmission culturelle. Et tout ça repose sur le langage. Toute cette transmission repose sur le fait que qu'on peut se communiquer les uns aux autres, les choses du passé, les choses vécues par d'autres.
Et du fait que la philosophie, certains mots sont restreints par celui qui l'emploie. Alors, tu as employé le mot transcendantal, je veux dire, voilà un mot qui a un tas d'arborescence. Et bon, je veux dire, selon Kant, ça veut dire. Voilà.
Tout à fait. Ah oui, en philosophie, c'est les mots les plus usités ont un sens différent selon chaque philosophe. Si tu prends substance ou essence, ou même être.
Transcendance.
Transcendance, oui, parce que en phénoménologie, la transcendance, c'est pas du tout. C'est pas du tout un niveau supérieur de réalité comme le divin ou comme les idées, mais c'est simplement le fait que nous avons du transcendantal en nous. Donc par exemple, il y a le titre d'un ouvrage de Sartre, La transcendance de l'ego. La transcendance de l'ego, ça fait allusion à ça, c'est le fait que nous avons des structures transcendantales Et l'ego, c'est pas chaque individu en particulier, c'est ce que tous les individus humains ont en commun. C'est-à-dire justement ces structures transcendantales, donc ces conditions de possibilité d'expérience que tout le monde a en commun. Donc là, la transcendance n'a pas du tout le même sens que quand ça désigne Dieu. Ou,
Et maintenant, on parle de la transcendance dans l'immanence.
Oui, mais il y a une créativité extraordinaire en philosophie et voilà, chacun va éventuellement y trouver son compte ou être déçu. Je veux dire, il y a aussi moyen de jouer. Hein.
Alors, il veut rechercher l'étymologie des mots. Par exemple, je prends le mot éthique qui est exactement et moral, qui est exactement la même signification au départ. Et maintenant, on les oppose.
Oui, mais je ne suis pas sûre que c'est exactement la même étymologie même. Parce que là où morale vient de mœurs, effectivement, et donc on renvoie plutôt à l'idée de coutume et de tradition, et éthique, ça renvoie plutôt à la formation du caractère. C'est plutôt le ethos comme, au sens de caractère. Et donc c'est plutôt le développement du caractère, c'est-à-dire la formation de la personnalité. Et ça se rapproche plus du sens actuel, effectivement, qu'on veut donner à éthique, hein, construction de soi. C'est quand même assez proche de l'étymologie grecque. Mais de fait, l'étymologie est une indication parmi d'autres, mais beaucoup de mots se sont complètement éloignés de leur étymologie. Alors, vous avez des systèmes philosophiques qui reposent énormément sur l'étymologie, par exemple celui de Heidegger. Heidegger, c'est vraiment un philosophe qui joue tout le temps avec les étymologies, qui pense que la vérité de la signification d'un terme est dans son étymologie. Et donc, il va chercher... par exemple, bon, justement, le mot vérité, aletheia en grec, aletheia, il se fait que c'est composé d'un alpha privatif, donc une négation, et l'été qui est l'oubli. Donc c'est la négation de l'oubli. Alors pour Heidegger, il fait toute une construction sur le fait qu'on a oublié l'être et que la vérité, ça va être de retrouver l'être oublié, etc. Donc en fait, c'est toute une construction à partir d'une étymologie qui n'était déjà plus comprise par les Grecs. Je veux dire, les Grecs, quand ils disaient aletheia, ils ne pensaient pas qu'il fallait nier l'oubli.
Ouais. Ouais.
Donc voilà, l'étymologie, c'est une indication parmi d'autres, effectivement. Mais la philosophie est un bon exemple de ces multiplications à l'infini de significations. Pardon ?
Ils se contredisent pas.
Bien sûr.
En mathématiques, on désigne les chiffres arabes, mais qui à l'origine sont indiens.
Il paraît, oui.
Les chiffres arabes à l'origine sont indiens. Et ce sont des marchands de Bagdad qui les ont ramenés et s'en sont servis. Donc ils ont un peu multiplié les chiffres. Et ils ont utilisé le zéro, et que les Indiens n'appellent pas ça le zéro. Ouais, le zéro, certes, mais qui désigne le vide.
Oui.
Et les Arabes l'ont utilisé en mathématiques, et ça va énormément servir, parce que ça va faire au maths un bond énorme, pour parler, donc les transcendants, là, ils ont complètement transformé. Mm. Et en mathématiques, ça va se faire, je veux dire, là, parce qu'effectivement, si on prend un espace, là, de là à là, effectivement, comment en géométrie, comment je vais faire, là, c'est un, mais non, c'est pas un. Mm. Et c'est là le truc. C'est ça, c'est très difficile. Bon, alors là-dedans, on peut dire que de 0 à 1, hein, il y a tout un épargne, et puis de 0 à 1, et puis de... Là, c'est infini, là. Voilà. Mais donc, ça va faire des bons mathématiques énormes. À partir d'une conception, finalement, philosophique, c'est ça, représenter le vide.
Oui, mais au moment justement où on l'a mathématisé, on lui a donné un autre sens.
Un autre sens.
Et c'est ça qui a permis.
C'est ça qui a permis. En maths, au moins en mathématiques.
Oui, oui.
Bon. Oui, essaye de faire une addition avec des nombres romains, par exemple.
Ah, c'est très bien. C'est une habitude.
Et t'as pas un boulier. Et pourtant, il va aller dans la. Comment dirais-je, les Sumériens, etc., Babyloniens, ils faisaient des mathématiques, ils connaissaient déjà les équations, les Grecs aussi. Donc, ce n'est pas le 1, le 1, je ne sais pas, ces
chez les Marseillais, ils ont inventé le zéro, non pas comme le vide, mais comme la négation du 1. Ils disent le dégain.
Le dégain. Je ne connaissais pas ça à tes potes.
Déjà, c'est pas mal.
Il n'est pas sérieux, franchement.
C'est très sérieux.
Comme quoi l'humour. Hein.
L'historianisme parle beaucoup de l'importance des mathématiques dans le fondement de la société, même à venir, qui est assez humain. Plus peut-être que le reste, enfin, j'ai presque fini. Mais c'est impressionnant, la théorie de l'ensemble, tout ça, ça continue de fonctionner. Enfin, ça m'a un peu inquiété pour le reste, pour les âmes. C'est pas, les mathématiques sont en part aussi, je pense, il faut faire plein de livres.
Il y a Zénon et Gödel qui a fait beaucoup de trous comme ça pour
l'harmonie. Avec Hilbert.
Oui, mais c'est vrai que les mathématiques, c'est un savoir où on... C'est vraiment une création qui correspond bien, de nouveau, à cette idée de magma dans lequel on ajoute constamment des nouvelles déterminations, puisque ça n'invalide pas les anciennes, mais on ajoute, en fait, de nouveaux champs, de nouvelles déterminations, de nouveaux ensembles, surtout des nouveaux domaines qui obéissent à des lois différentes, mais ça n'annihile pas les autres. C'est ça qui est évidemment fascinant. Parce que c'est cumulatif, c'est vraiment un superbe exemple de savoir cumulatif. Et, où on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup d'erreurs à corriger. En fait. Contrairement à la physique, où on a beaucoup d'erreurs à corriger, notamment parce que... grâce ou à cause de sa dépendance à la technique. Je veux dire, faire des nouvelles découvertes en physique suppose une technique, suppose une élaboration technique. Chaque fois qu'on a fait un bond en physique, c'est parce qu'on a découvert le télescope ou le microscope. C'est un bond technique d'abord. En maths, on n'a pas besoin de ça. C'est les cerveaux qui fonctionnent. Et, bon, un peu le calcul par ordinateur, mais... Le calcul par ordinateur, ça donne jamais que des quantités, des mesures. C'est pas la conceptualisation qui avance par là.
Il n'y a pas de confrontation à l'observation dans les mathématiques. Donc, quand il y a, en mathématiques, on peut comprendre chaque fois qu'il y a un mathématicien, par exemple, qui suppose que si on tire un parallèle et un point, on va user le droit d'une ici de droit, ça ne contribue rien, ça développe la branche.
En même temps, il y a quand même une certaine confrontation avec le réel, et c'est très intéressant parce que, alors que justement c'est un savoir plutôt axiomatique qui peut progresser, effectivement sans être mis à l'épreuve, en même temps, il arrive souvent que quand on fait une construction, vraiment une construction de ce genre, enfin, qui a l'air d'être détachée de la réalité, qui a l'air de ne pas être directement applicable, en fait, on en trouve une application après dans un autre type de... Bon, la géométrie riemannienne a été appliquée, par exemple, à la relativité, à la conception relative de l'espace-temps. L'espace-temps est riemannien. Bon. Alors, là, c'est encore une fois un heureux hasard qui fait cette correspondance. Non, il y a quelque chose... peut-être qu'on pourrait inventer... disons qu'a priori, l'invention de nouveaux espaces mathématiques ou de nouvelles règles mathématiques... est infini, quoi, est infiniment ouvert. Mais il se fait qu'il y a certaines de ces inventions qu'on croyait être complètement imaginaires, mais pas applicables, qui se sont retrouvées applicables. Donc.
Ah, mais ça veut dire que ça évolue en parallèle de la
réalité.
Ça veut dire que si on est applicable, il n'y a pas communication vidéo ou application de la couleur, mais je pense pas que ça. C'est vraiment
Absolument. Non, c'est un beau savoir parce que c'est un savoir gratuit. C'est quelque chose de fascinant. On va se retrouver alors, la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vous assure que c'est moins théorique.